Salut les auditeurs et auditrices, ça fait bientôt un an que les podcasts Réponse de mec et Réponse de meuf ont été adaptés en spectacle. Un spectacle interactif qui se joue tous les samedis à 18h à la Divine Comédie, c'est un théâtre à Paris. Ce spectacle, c'est l'occasion de prolonger les débats, d'étendre les discussions, d'exposer et d'écouter plein de points de vue sur vos questions et évidemment de se marrer. On finit la saison le 27 avril, ça veut dire qu'il faut que vous preniez vos places pour un des derniers samedis qui restent. Le lien est dans la description et au pire, faut taper Réponse de mec dans Billets Réduc. Profitez-en, hein. Les places sont vraiment pas chères et surtout, c'est les dernières. Après, c'est fini. Allez, je vous laisse avec votre épisode. Bonne écoute et à samedi.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour, nous sommes les gentilshommes. Salut les gars, salut Conny, salut Dan.
Yo.
Salut Dan, salut Pascal.
Oh, quoi ?
Ça va très bien et bonjour chères auditrices et auditeurs et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast qui s'interroge sur les relations amoureuses. Pour ce faire, à chaque épisode, nous recevons une invitée et on lui pose des questions que d'habitude on se pose entre nous. Donc ça nous permet d'avoir des points de vue, d'avoir parfois des réponses à nos questions et de converser, de faire un portrait. Ça nous permet à nous tout ça, mais surtout on s'est rendu compte que ça vous permettait à vous, auditeurs et auditrice, d'évoluer beaucoup, de voir que parfois vous n'êtes pas seul, que parfois vous n'êtes pas seul à vous poser des questions, vous n'êtes pas seul, enfin homme et femme, c'est vraiment un outil de dialogue et d'union qu'on a créé, on en est très très fiers. Donc ouais, l'intro est un peu différente puisque l'épisode d'aujourd'hui est un peu différent,
bien sûr.
C'est un SAV, c'est le service après-vente des gentilshommes dans lequel nous recevons trois invités que nous avons déjà reçus, mais on va revenir là-dessus après. Pour l'instant, je tiens juste à dire que on est ravis d'être là et on est ravis que vous nous écoutiez. Et si vous êtes ravis de nous écouter et que vous avez envie de participer un peu à notre développement, à notre expansion, si vous avez envie de nous soutenir, le premier truc que vous pouvez faire, c'est laisser votre avis sur cet épisode, sur ce podcast, dans votre application de podcast. Donc soit laisser un pouce bleu si vous êtes sur YouTube, laisser 5 étoiles si vous êtes sur Apple ou laisser un commentaire si vous êtes sur Podcast Addict. Ou vous pouvez aussi le partager.
Le partage,
c'est hyper important parce qu'on sait que le partage, c'est de l'amour.
Exactement.
Donc si vous aimez les gens, envoyez-leur un petit épisode.
Voilà, vous prenez un épisode qui vous plaît et
vous l'envoyez. Exactement.
Voilà, j'ai écouté ça.
Si vous dites je t'aime et puis juste voilà l'épisode avec quoi.
En envoyant l'épisode sur la fidélité.
C'est plutôt cool.
J'ai dit sur la fidélité.
La fidélité.
J'avais mal compris moi.
Il n'y a pas eu d'équivoque. Pour nous soutenir aussi, vous pouvez participer au podcast si vous avez un coup de gueule, un truc pour la hotline du lundi soir,
exactement, bienvenue. Vous nous écrivez,
venez, un petit message sur Insta et on passe le
si
le
vous
lundi
voulez
soir.
Voilà, raconter une infidélité par exemple.
Anonyme,
vous voulez raconter voilà, je trompe ma femme depuis 15 ans, hop. Mais bien sûr, en mode anonyme.
Tais-toi. Et donc, ou alors si vous voulez venir discuter, si vous avez un sujet qui vous tient à cœur et que vous voulez le partager, vous pouvez venir aussi pour les podcasts. Pareil, vous nous envoyez un petit message.
Exactement, Facebook, n'hésitez pas.
Instagram. Pour nous soutenir aussi, il y a Tipeee. Donc, Tipeee, c'est pour faire des dons ponctuels récurrents. Si vous voulez participer à l'aventure, faire un petit peu partie du développement du podcast, vous pouvez faire un petit don quand vous voulez. Les dons récurrents sont plus sur la longueur.
Les dons récurrents sont les bienvenus, ça nous soutient.
Donc, ou alors un gros don ponctuel, 1000 euros, juste une fois, ça va aussi.
Ça marche aussi.
Ça marche très bien.
1000 euros en récurrent aussi, ça marche.
Ouais, c'est pas mal.
C'est
salaire.
C'est les enchères, là. C'est les enchères qui sont parties. Ça nous permet.
Est-ce que ça permet le.
Ça nous permet, en tout cas, ça nous permet de développer le podcast, donc de faire un peu de com.
T'imagines, 1000 euros par mois, bam.
Waouh.
Ce serait pas mal, ça.
Tu me déconcentres. Ouais, tu me déconcentres. C'est pas possible. Ça nous permet aussi de développer le Club des Gentilshommes, que vous connaissez certainement. C'est cet endroit qu'on a créé sur Discord avec des salons vocaux, des salons écrits, pour pouvoir échanger entre vous, entre nous aussi. Un lieu qu'on a voulu à notre image, qu'on espère, avec beaucoup de respect, de la bienveillance, de la curiosité, de l'humour. Si vous êtes tipeur, ben voilà, ça fait partie des contreparties. Il y a d'autres contreparties aussi.
Exactement. Quand vous êtes tipeur, vous avez l'épisode en exclusivité, donc la veille de la diffusion officielle. Et vous avez aussi des contenus bonus qu'on est en train de faire. Il y a des bonus qui vous racontent un peu les coulisses des gentilshommes. Il y a des petits pilotes qu'on est en train d'enregistrer. Donc franchement, moi, je me dis, qu'est-ce que vous attendez pour donner un don et puis éventuellement un gros don d'ailleurs.
Mais voilà, c'est ça. On en a
donc,
parlé.
N'hésitez pas. Allez sur lesgentilshommes.fr. Allez sur Tipeee. Voilà, il y a tous les liens dans la description. N'hésitez pas, c'est maintenant qu'il faut le faire parce que peut-être que demain il sera trop tard.
Oh oui, c'est
voilà.
Sûr. Tout à fait.
Ouais.
Bah oui.
Allez, le SAV.
Allez, le SAV, merci. Aujourd'hui, on retrouve donc, nous avons trois invités autour de la table que nous avons déjà eu. Nous avons Léna qui était venue nous parler de se reconstruire après une relation toxique.
Bonjour.
Salut, hello, Léna.
Bonjour. Nous avons Alice qui était venue nous parler de prendre l'initiative.
Hello.
Hello.
Nous avons
Salut, Alice.
Valentine qui était venue nous parler du mal alpha. Je remettrai tous les liens, je pense, de
Hello.
Vers
Hello,
les
Valentine.
Épisodes.
Hello
Valentine.
Comme ça, vous pourrez aller les écouter. Et aujourd'hui, on se retrouve. Et bonjour. Merci d'être venue nous voir.
Un an après.
Ça, c'était un an après, c'était il y a un an.
Bah, quasiment, je crois.
C'était ça, ouais, c'est ça, ouais, pratiquement. Ouais. Ah là là,
on
le temps passe vite.
Le premier confinement.
Ah,
ouais, tout à fait.
Ouais,
et là, on sort du combien? On est au quatrième confinement, cinquième? Je sais plus.
On compte même plus.
La vie est plus lente en ce moment.
Oui.
Donc ça va.
Ouais, c'est vrai. Alice, tu peux nous raconter un petit peu dans quel état d'esprit tu étais sur prendre l'initiative quand on s'est rencontrés, donc il y a un an. Et puis après, on va voir.
Est-ce que depuis, tu as pris l'initiative en fait?
Oh, elle avait déjà bien pris l'initiative déjà.
Oui. Bah oui, on veut la suite.
Recontextualise
un
peu.
Ouais, s'il te plaît.
Par rapport à ce que j'ai dit, si je dois faire un petit résumé. Pour avoir réécouté mon épisode quand il est sorti, je me suis rendu compte qu'en gros, je prenais facilement l'initiative et je prenais des risques, entre guillemets, parce que je trouve que ça va ensemble, quand il n'y avait pas trop d'enjeux, c'est-à-dire en début de relation ou pour aborder ou pour rencontrer des mecs. J'avais donné l'exemple de... J'étais partie en avion dans un autre pays rejoindre un mec que j'avais jamais vu.
Irlande, San Francisco. Exactement. San Francisco, quand même.
Mais que par contre, dès qu'il y avait un enjeu et que c'était un peu plus loin dans la relation, pour tout ce qui est de... j'allais dire contractualiser, mais ce n'est pas un...
Engagé.
Ce n'est pas un achat d'appartement.
L'absus très intéressant, quand même.
Mais de... mettre des formes ou avoir des conversations un peu plus sérieuses qui font peur quand on commence à voir quelqu'un, parce que forcément, c'est souvent des un peu des croisements, enfin, des points d'ancrage où, après ce genre de conversation, on sait que la relation va prendre un sens ou un autre. Mmh. Et ça peut potentiellement stopper là où on en est. Mmh. Et que là, j'arrivais plus du tout à prendre aucune initiative ou aucun risque. Et je vois que j'ai continué dans le même schéma pendant le Covid. Donc le timing est parfait parce que je viens de finir une relation qui a duré 6 mois où tout ce que je viens de dire s'est retrouvé. Enfin. Je vois que mon cheminement est exactement le même.
C'est-à-dire que tu as pris l'initiative?
C'est-à-dire qu'au tout début, ça a été une prise d'initiative et une prise de risque de voir ce garçon et même de continuer à le voir au tout début parce que c'est pas du tout quelqu'un qui était du style que j'ai l'habitude de dater et qui me sortait vachement de ma zone de confort et qui a presque été un peu lié à un challenge que mes potes m'ont donné, qui m'ont dit, en fait, si tu rencontres jamais des mecs bien, c'est parce que t'as un style hyper précis et hyper, pour elle, superficiel, et que si tu changes de style, en plus, on est persuadé que ce style te convient pas du tout pour plein de raisons, donc si tu changes, on est persuadé que tu vas rencontrer quelqu'un de mieux, et donc du coup, pour un peu leur dire, vous voyez, j'aurais essayé.
Juste pour expliquer aux auditeurs, donc ton style en deux mots, hein, et ton style est donc le style du mec
Ça va faire hyper cliché, hein, mais mon style habituel, ce serait le petit Parisien dynamique en pantalon chino, chaussures bateau, qui va faire des brunchs dans le marais le dimanche.
Très précis.
Okay. Et...
bah, je trouve que ça donne un tableau, on voit à peu près le type de personne que c'est, surtout en habitant à Paris. Et là, j'ai commencé à avoir un mec qui était très rock, biker, tatoué.
Ça, elles ont validé.
Tout ça, tout ça. Elles l'ont. Bah, justement, franchement, c'est quelqu'un qui a vachement bouleversé tous les préjugés et tous les a priori que je pouvais avoir sur justement le style qui me plaisait. Et j'étais persuadée qu'il me plairait pas, en fait. Les deux premiers dates, je le voyais pour taire mes amis, mais dans ma tête, je me disais, mais il se passera jamais rien entre nous.
Et comment tu l'as rencontré ?
Via une application de rencontre.
Ok.
Il me plaisait quand même physiquement, mais...
Mais ouais, c'était pas du tout... Ouais.
C'est ça. Même son mode de vie, enfin... Je me voyais pas du tout rentrer dans une relation avec lui. Et enfin, il avait des qualités où quand on parlait, c'était très très cool. C'est pour ça que j'ai continué à le voir au début. Hein. Mais c'était aussi pour un peu... par esprit de contradiction, pour dire à mes amis, bah vous voyez, j'ai essayé et ça n'a pas marché et je me suis fait prendre à mon propre piège très rapidement.
C'est génial, ça.
C'est pas mal, ça.
Qu'est-ce qui s'est passé alors ? La chronologie même, la chronologie du truc, c'est-à-dire que tu matches avec lui sur l'appli ?
Ouais.
Tu fais quoi ? Tu montres le profil à tes copines ou comment ça se passe ?
Non, d'abord je l'ai vu.
Tu dis tiens.
Tu l'as d'abord vu, donc premier date.
Et ensuite j'ai dit à mes amis, bah vous.
Tiens, je vois ce mec, machin. Ouais.
Et après le date, tu leur as montré la dégaine du gars pour leur dire, voilà, il est comme ça. Et comment ça s'est passé alors ce date ?
C'était très cool, mais après, moi je suis quelqu'un qui adore.
Pécho, après le date. Non.
Non, pas les mêmes. Les deux premiers, il s'est rien passé. Okay. Et puis, j'adore rencontrer des gens et parler, etc. Donc c'était très cool, mais je me disais, il se passera rien. Et au final, non seulement on a continué à se voir, malgré même reconfinement, tout ça, mais en plus, à l'heure actuelle, je peux dire que je pense que c'est la relation qui m'a le plus appris sur moi-même et sur ce que je veux. D'une relation, ce que je veux des mecs. Enfin, ça a vraiment changé. Et je dirais même que maintenant, le style qui me plaisait avant, c'est quelque chose que je fuis. Je le vois parce que j'ai recommencé à repartir sur les applications de rencontres. Et maintenant, je fuis ce profil-là parce qu'il m'a montré... Enfin, il m'a fait réfléchir à ce qui réellement était important pour moi. Et j'ai vu ce qui me plaisait et ce qui me plaisait pas. Et même la partie négative de notre histoire, parce qu'il y en a une, si on n'est plus ensemble, c'est pour une raison... c'est une prise d'initiative de mon côté et même sur plein d'autres trucs qui m'a éveillée de
comment il s'y
côté
pris
musical
pour...
vestimentairement en plus j'ai fait un mini burn-out et j'ai quitté mon travail au même temps que je le voyais vraiment il a une bonne influence, hyper positif,
bonne influence, tu penses,
et même sur je pense les prochains mecs qui me croiseront peuvent, entre guillemets, lui dire merci.
C'est bon, ça. Par contre, les Parisiens en chino et en chaussures bateau, ils sont dans la merde.
Ça, c'est fini.
C'est fini, quoi.
Mais qu'est-ce que t'as découvert ?
J'ai découvert que ce que j'aimais chez lui, justement, c'était le fait qu'il était très, très dans l'instant présent, hyper dynamique, hyper enthousiaste, très, très cool, mais pas... cool, juste à profiter de la vie et à aimer faire plein de choses et vraiment à pas se soucier du regard des autres et de la société et faire les choses vraiment parce que lui en avait envie et moi c'est quelque chose que je me rends compte à l'heure actuelle qui est en fait la première qualité que je recherche chez quelqu'un parce que je suis quelqu'un de plutôt extraverti et extravagante ou ce qu'on veut et mes amis même parfois sont un peu dans le jugement parce qu'elles sont pas du tout comme ça et je me rends compte que j'ai envie de quelqu'un qui voit ça comme une qualité chez moi et j'ai envie de le retrouver chez la personne en face et ce que je disais dans mon premier podcast d'ailleurs c'était que l'audace c'était quelque chose que je valorisais vachement et en fait je me suis sentie tellement libre avec lui d'être... Surtout qu'au début, il me plaisait pas, donc... J'en avais rien à faire de ce que je racontais ou pas. J'essayais pas de me polir et d'être cette image lisse. Et je pense que le petit Parisien en chino, malheureusement, cherche... Enfin, encore une fois, chaque personne est différente, mais ceux que j'ai rencontrés, en tout cas, à mon avis, cherchaient une fille très... belle fille idéale, très lisse, très... qui allait pas leur faire de l'ombre, qui était... qui n'avait pas des envies et des projets extravagants. Et moi, j'ai envie de faire plein de trucs de ma vie, et même ne serait-ce faire un podcast, je sais que lui, quand je lui en avais parlé, justement, il m'avait dit « mais c'est trop cool ». Et quand j'en ai parlé à certaines de mes amies, elles m'avaient dit oh, « mais qu'est-ce que tu veux faire encore? Qu'est-ce que tu vas raconter? Les gens vont l'entendre ». Donc, juste ce lâcher prise, cette liberté, je trouve que c'est... Et ce dynamisme et cet enthousiasme, juste, même en période de Covid, avoir l'envie de vivre des choses de sa vie et de faire sans avoir à se préoccuper des jugements, c'est hyper libérateur. Donc
le fait aussi d'aller vers un mec qui te plaisait pas, c'est intéressant parce que toi, ça t'a libéré dans un sens. Enfin, t'étais plus à la cool. Et en fait, tu t'es retrouvé vachement là-dedans.
Bah, c'est ça. Et je pense que même si le style, ça peut paraître hyper superficiel, ça montre quand même vachement de nous-mêmes. Et bah oui.
C'est ce que je dis à Conny tout le temps. C'est vrai que du coup...
Arrêtez avec les t-shirts de métal. Hein,
je dis, écoute Conny, habille-toi quand même.
Mais du coup, c'est étonnant que ça se soit terminé.
Bah parce que l'autre chose que j'ai appris sur moi, enfin, que j'ai appris à faire plutôt, c'est que bah, dans mon premier épisode, ce que je disais, c'est qu'une fois qu'il y avait plus d'enjeux dans la relation, je devenais complètement paniquée, j'osais plus... rien dire et pas aborder les sujets entre guillemets qui fâchent. Et là, j'ai reproduit exactement la même chose, c'est-à-dire que c'est hyper bien d'être cool et d'être dans l'instant présent, etc. Mais il y a quand même, entre guillemets, des conventions sociales que je trouve importantes de suivre, c'est-à-dire quand on t'envoie un message, tu réponds.
Oh. Oh, pourquoi on s'est tourné vers Pascal tous les deux, Dan.
Ouais, c'est bizarre, on a tous les jours regardé
aussi,
Pascal.
Mais qu'est-ce que c'est que ces histoires?
Je veux dire qu'il répondait pas du tout, il mettait trop de temps à répondre.
Pas assez vite à ton goût.
Il mettait beaucoup de temps à répondre. Enfin, en fait, c'est plus globalement, on n'avait pas du tout la même façon de communiquer et de fonctionner, et même d'appréhender une relation, je pense. Lui, justement, il était dans l'instant présent, c'est-à-dire que quand j'étais avec lui, je me sentais complètement rassurée, même sur ce qu'on était, et j'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi attentionné et affectueux, et il m'a montré par plein de gestes qui tenaient à moi. Mais du coup, en fait, quand on n'était plus ensemble, lui, il retournait à sa vie, et j'avais l'impression que j'existais plus, alors que... C'était, enfin, je pense pas du tout le cas, mais c'est juste que, bah, vu qu'il est comme ça avec chaque personne, quand j'étais avec lui, il était jamais, jamais sur son téléphone, mais du coup, en fait, il est jamais dessus, donc ça fait que ça faisait des montagnes russes émotionnelles, parce que vu que j'osais pas aborder la question de, bah, comment tu me vois, qu'est-ce qu'on est, j'essayais de jouer à la meuf détachée, surtout que lui, ça se sentait qu'il avait une confiance en lui suffisamment importante pour se dire bah je suis bien avec moi-même, donc en fait j'ai rien à te prouver, et moi je suis pas comme ça. En plus, il était un peu plus âgé, donc et je sais que même j'ai des petites tendances à la dépendance affective, et j'ai ce genre de faille que m'ont donné mes ex que j'essayais de combler, mais du coup j'osais pas, et ça m'est même arrivé de me réveiller en pleine nuit en me disant mais il faut absolument que je lui parle, c'est plus possible, je suis trop stressée, ça fait déjà 5 mois et j'ai pas de réponse. Le Covid, etc., n'aidant pas, parce que, comme je disais, c'est quelqu'un d'hyper dynamique. Donc là, il vivait quand même pas hyper bien la situation. Je pense qu'il avait pas aussi la maturité à ce moment-là de sa vie pour justement. Il voyait un peu la relation, j'ai l'impression, comme des contraintes, quand même. Le fait que, voilà, lui, tout doit être très cool. Donc s'il y a des contraintes, très vite, ça le saoule. Donc, j'ai tenté à un moment de lui dire que moi, ça me stressait quand j'avais pas de ses nouvelles, qu'il me disait « je pars à la campagne avec mes potes en moto pendant 2 semaines ». J'étais « ok ». Mais en fait, après, j'avais plus de nouvelles pendant 2 semaines. Donc, au début, ça va. Et puis, à la fin, quand t'essayes d'envoyer des...
Il n'y avait pas de réseau.
Et ben, voilà. Ça, c'était donc ça. Ouais. Mais
t'arrivais pas à lui en parler, t'arrivais pas à formuler.
J'arrivais pas du tout à lui en parler, vraiment.
Pourquoi c'est parce que il...
Ben parce que comme je disais, peur de qu'en fait il me renvoie le. Mais on est rien en fait l'un pour l'autre. Ce qui, je pense, c'était pas le cas, parce que je trouve que les actions sont plus importantes que les mots. Et je dis, il m'a aidé à un moment où ça allait pas bien. Et puis, enfin, il est venu faire des travaux chez moi. Enfin, clairement, on n'avait pas une routine de.
Ça, c'est engageant.
Un mec qui vient faire chez toi, quoi.
Il est venu accrocher le grillage pour accueillir mon chat. Voilà, on n'est pas non plus. Il a pas refait toute la plomberie.
Ouais, mais c'est cool. C'est quand même cool.
Non, mais voilà. Donc, je pense que dans sa tête, on n'était pas du tout. Un plan cul, mais j'arrivais pas à...
C'était un plan cul travaux,
quoi.
Oui. Non, je rigole.
Tu regrettes de pas avoir réussi?
Ouais. Ouais. Vachement. Mais après, ça m'a permis de prendre le temps de réfléchir, comme je dis, à ce qui me posait vraiment problème dans une relation. Et au-delà du fait que j'ai pas réussi à poser les mots sur ça, maintenant, je me rends compte qu'il avait des qualités que j'adorais, mais que notre façon différente de fonctionner a fait que ça n'aurait pas pu marcher sur le long terme. Et donc, ce que je retiens en gros de cette relation, c'est le style que je cherchais, en fait, c'est pas le bon, et les qualités que je recherchais sont pas les bonnes, mais avoir quelqu'un en face qui est fiable, avec qui la communication est fluide, c'est aussi des non négociables pour moi. Mmh. Et en fait, avec lui, serait, même si un moment, je lui en ai un petit peu parlé, j'avais vu qu'il avait fait des efforts, très vite les efforts sont repartis parce que c'est pas qui il est. Et en fait, il faut que j'arrête de me dire que je prenais des conseils auprès de potes qui sont hyper détachés, mais qu'ils sont réellement. Mais moi, je le suis pas, et donc il faut juste que j'accepte que de pas l'être et me dire que je suis pas quelqu'un de détaché et qu'en fait, je trouverais quelqu'un qui trouve que c'est une qualité d'être hyper enthousiaste et qui ça lui fera plaisir quand il recevra un message de ma part, plutôt de te dire oh là là.
Et peut-être que ça lui fait plaisir quand même de recevoir des messages de ta part. C'est pas parce qu'il y répond pas que
mais non, il se sent visé.
Non, mais on sait pas pour le coup.
Non, mais peut-être
il est trop content,
c'est pas du tout par rapport à moi que je dis ça, c'est que là, tu dis, tu supposes de sa perception de ton message, oui. Mais en vrai, t'en sais rien. Si ça se trouve, il était sur sa moto, il rentre, il fait une pause, il voit un message, il dit trop cool, elle pense à moi, super, il range le téléphone, il repart. Je veux dire,
c'est pas vraiment de la
communication, ça.
Non,
c'est
vrai que l'autre ne sait pas. Je suis d'accord, mais là, on parlait plus de communication. C'est-à-dire que, tu vois, ce que tu disais, c'est que tu supposais que la manière dont il recevait le message n'était pas la bonne, puisqu'il n'y répondait pas.
Oui, parce qu'il ne répondait pas ce que moi j'attendais, en fait.
Voilà,
Mais c'est pour ça que je dis que je regrette, c'est qu'en fait, c'est ce que je dis, je pense qu'on a des modes de communication différentes.
Tout à fait.
Ça lui faisait quand même plaisir, mais que pour lui, ce n'est pas la façon dont il montre qu'il aime quelqu'un, c'est par des petites attentions, et il avait plein de petites attentions trop mignonnes, où du coup, c'est pour ça aussi, à chaque fois que j'arrivais chez lui, il était trop mignon et du coup je me disais non mais c'est bon.
T'as dit il était plus vieux, c'est peut-être il était pas habitué au portable encore.
T'es pas sur cette tranche d'âge.
Quand même pas.
J'ai une question pour Valentine et Léna par rapport à l'histoire d'Alice. Il y a quelque chose que vous retenez de son histoire, je pense peut-être au changement dans le choix des critères. Est-ce que vous, ça vous
parle ou pas?
Ouais, ça vous parle, ou est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui vous a vraiment...
Ouais, moi il y a un truc, alors c'est pas sur le changement des critères, mais c'est vrai que ça c'est un sujet. Parce que finalement t'as plusieurs niveaux de critères, quoi. T'as l'apparence, le mode de vie, et après t'as les qualités humaines et de communication, donc t'as plein de niveaux. Non, il y a un truc, c'est... Et d'ailleurs c'est une question que j'ai envie de vous poser, c'est...
C'est pas le moment, là.
D'abord,
Tu peux quand même poser
la question.
Je rigolais, Valentine, vas-y, bien sûr.
Ce qui fait écho, c'est en effet, en gros, quand on veut un truc sérieux et qu'on n'est pas sûr que le mec il veut un truc sérieux, en gros, c'est ça, quoi.
Oui.
Est-ce qu'on lui dit et ça va le faire fuir? Ça, c'est la question éternelle, quoi.
Mais en vrai, on n'est jamais sûr. On n'est jamais sûr.
Ouais. Et s'il fuit, c'est qu'il ne va pas rester.
Ouais,
tu crois que t'es jamais sûr?
Moi, je pense que t'es jamais sûr. Et surtout, je pense aussi, comme dit Pascal, si tu fuis, c'est que de toute façon, t'allais fuir, quoi qu'il en soit, à un moment. Aussi, donc.
Tu crois que t'es jamais sûr, vraiment, quand t'es amoureux? Non?
Je sais pas, je regarde Pascal, c'est Pascal qui sait. C'est mon sensei. C'est mon
Obi-Wan.
Non,
moi, je...
Pascal, qu'est-ce qu'il veut que je réponde?
Non, moi, je sais pas si on est jamais sûr. Oui, on est jamais sûr. Parce que
t'es pas obligé de dire ça pour
moi. Non, mais de ma définition, parce que pour moi, je pense qu'on n'est jamais sûr, parce que je trouve que tout est incertain. Mmh. Et les certitudes d'un jour, c'est les déceptions du lendemain, en fait.
C'est beau. Wow. Et est-ce que donc une femme qui te demande...
Attention, ça peut être aussi les bonnes surprises du jour d'après. Mais enfin, moi, je fonctionne pas avec les certitudes, donc je suis jamais sûr. Parce que c'est pas ma manière de fonctionner, de voir les
choses.
Donc
si une femme te demande de te positionner, ça te fait un peu fuir aussi?
Ah non, ça... Alors... Alors, on en a parlé dans un autre épisode qui aura sûrement été diffusé le temps qu'on passe cet épisode. C'est pas que ça me fait fuir, mais c'est que ça me fait me rendre compte. Aujourd'hui, j'ai la maturité pour me dire si cette femme veut quelque chose et que je suis pas en mesure de lui apporter, bah, il faut que je parte. Faut que je la libère. Faut que je lui dise,
mais
bah,
c'est
va
vrai, par contre, si tu dis que tu peux apporter le truc, bah, t'y vas.
Si
quoi.
Tu dis que tu peux apporter le truc, tu peux y aller. Mais après, la question aussi, c'est est-ce combien de temps je vais pouvoir lui apporter? Est-ce que, mais après, c'est vraiment moi, par rapport à moi, mais comme je suis, est-ce que je vais être capable de lui apporter sur la longueur? Est-ce que je vais pouvoir être capable d'être constant? Est-ce que, tu vois, des trucs qui ne me définissent pas du tout, par exemple? Donc,
c'est. En tout cas, moi,
c'est pas de la fuite. Je considère pas ça comme fuir. Ou en tout cas, c'est pas si on me dit quelque chose, je vais prendre peur et fuir. C'est pas ça du tout. C'est plus ça. Vraiment un éclairage de plus sur la situation qui fait que je vais devoir me dire, je dois tenir compte de cet éclairage supplémentaire.
Ouais. Non, mais t'as raison. En fait, je reviens sur ce que j'ai dit. Je crois que j'ai dit une connerie. En fait, je pense que t'es jamais sûr tout au début, mais après, mais en fait, c'est vraiment le truc, c'est parce que je pense aux applis. Et tu sais, le premier truc qu'on te dit, enfin, pas qu'on te dit, mais en gros, tu parles 5 minutes avec quelqu'un et en gros, la fille ou le mec en face va te dire, ah ouais, toi, tu cherches quoi? Et là, pour le coup, je trouve que vraiment, tu sais pas ce que tu cherches.
Tu l'as même pas encore rencontré.
Là, tu vois, je pense, quand t'as rencontré une personne une fois ou deux, tu sais pas, en fait.
Non, mais là, elle est.
Mais par contre, en effet, je pense qu'à un moment, tu peux savoir, et je pense aussi que si la personne met le truc sur la table et dire, écoute, moi j'envisage un truc long, est-ce que toi machin, bah je pense en effet, comme dit Pascal, si ça te fait, si vraiment t'es pas en accord avec ça, ça va te faire fuir, mais en fait c'est plutôt bien dans ce cas là
oui.
Parce qu'en fait vaut mieux que tu partes tout de suite que plus tard.
C'est ça que je voulais dire, c'est une question que moi je me suis beaucoup posée, et maintenant aujourd'hui je suis un peu plus âgée que toi, je pense qu'il faut le dire. En fait, finalement, tu gagnes du temps, quoi. Mais parce que tu le dis pas en te disant, ah, si je le dis, le mec il va fuir.
Mais par contre,
mais en
faut
fait,
pas
non,
le dire au bout de 3 jours.
Que...
C'est aussi ça, quoi. Faut attendre.
Oui,
non,
voilà.
Mais pas
attendre.
La règle des 3 jours.
Non, mais il faut, voilà. Tu vois, parce qu'il y a ce truc aussi des fois où c'est trop rapide. C'est
moi,
vraiment genre en mode.
Je sais pas, 2 mois, tu peux.
Ouais.
2 mois, ça
par exemple. Mais pas, voilà, pas une semaine.
Non, mais. Parce que pour continuer juste là-dessus, il y a un côté, si tu le dis trop tôt, il y a un côté plus spontané, en fait, où tu dis, mais attends. Ça veut dire que quelque part tu attends quelque chose alors que moi j'attends pas forcément. Mm. Si ce sujet vient trop tôt, enfin je.
Bah en plus je pense que sur les applications de rencontres, il faut pas oublier quand même que bah quand ça fait par exemple un mois qu'on a commencé à dater l'autre, il y a un mois il savait même pas qu'on existait. Enfin il.
Oui oui.
Il nous connaissait pas, donc je pense que les sentiments ça évolue aussi, donc.
Tout à fait.
Mais j'avais deux sons de cloche de mes amis, celles qui me disaient non. Tu lui poses jamais la question. Et celle qui disait, ah bah oui, au bout de 3 mois, il faut avoir ce genre de conversation et tout. Je me suis dit, mais en fait, aucune des deux réponses n'est la bonne, parce que chaque relation est différente et il n'y a pas un stade comme ça où à 3 mois, en fait, tu dois basculer d'un côté ou de l'autre. Mmh. Et le dernier enseignement de cette relation, vraiment, c'est qu'à l'heure actuelle, je me sens beaucoup plus confiante et beaucoup plus sereine, et que je sens que si je rencontre quelqu'un, j'aurai beaucoup moins de mal à lui dire où j'en suis. Mais en fait, à chaque stade, c'est-à-dire si je suis pas prête à ce que pour l'instant ça soit sérieux, ou enfin que en tout cas ça soit un sujet de conversation beaucoup qu'on désacralise, histoire que, parce que là on n'avait pas parlé de notre relation depuis le début, donc en fait je me suis dit, le jour où j'en parle, ça va arriver comme un paquet.
Ouais, et puis t'attends. Plus c'est dur, non?
Mais c'est intéressant, parce qu'on en a parlé dans un épisode avec François Ortelli, je sais pas si vous vous rappelez,
Le cœur sauvage,
donc, qui a sorti un bouquin
tu après votre épisode.
Et ouais, voilà, qui a sorti un super bouquin qui s'appelle Nos cœurs sauvages, et elle parle justement du fait que aux États-Unis, en fait, ça c'est très codifié. Et en fait, t'as ce truc où tu dates pendant, je sais pas, 3 semaines, 1 mois, machin, et en fait, je sais même pas combien de temps, mais en tout cas, à un moment, t'as un truc qui s'appelle The Talk, c'est vraiment, voilà, tu te poses et en gros, tu fais exactement ce que finalement là, de ce dont tu parles, et en fait, ça va dans le truc. Enfin, c'est logique, c'est genre, tu peux dater à fond, tu peux être en mode pas exclusif, jusqu'à ce que t'aies cette discussion, quoi.
Et juste, c'est tellement bizarre.
C'est bizarre, hein, mais ça enlève de la spontanéité, en fait.
Ouais,
c'est vrai
franchement,
qu'il y a...
on n'a pas envie d'être comme les Américains.
mais par contre, ça facilite peut-être...
Pardon. Vas-y, pardon. Non, mais je trouve ça étrange de me dire qu'il y a... Enfin, moi, j'ai la sensation, quand t'es dans une relation et que ça marche bien avec l'autre et que t'aimes passer du temps avec l'autre et tout, qu'il y a une sorte... peut-être, c'est un peu con ce que je veux dire, mais d'évidence. Enfin, il y a un endroit où aussi tu sais, quoi, et où... Enfin, moi, j'ai l'impression que c'est moins sacralisé que ça, quoi. Que tu peux avoir juste une conversation tranquille où, tu vois... Où, je sais pas, on se fait comprendre que oui, ce qui se passe, c'est bien.
C'est ça, c'est qu'au bout d'un moment, je me suis dit, en fait, tu devrais pas avoir peur parce que ça devrait être quelque chose de simple et naturel. Et si lui, il le reçoit comme une conversation vraiment stressante qui l'angoisse et qui lui donne envie de fuir, c'est que le match n'est pas fait pour fonctionner.
Comment tu peux savoir comment il allait percevoir la conversation ?
Oui, bah ça.
Mais,
je parle.
Non, mais je comprends.
Les relations d'accord, en règle générale, pas là.
D'accord, ok, pas là, d'accord.
Mais t'as projeté sur lui parce que tu dis, il voyait peut-être les trucs comme une contrainte, c'est quelque chose qu'il t'a dit ?
Pas de manière directe, mais il me le disait sur d'autres domaines, genre par exemple professionnel. Et du coup, il me donnait l'impression que son caractère global était que s'il avait quitté le CDI, le côté salarial, etc., c'est parce que les patrons, toutes ces contraintes, etc., qu'il aimait être son propre chef d'entreprise. Et du coup, sur certains parallèles, j'avais l'impression qu'il se disait la même chose sur les relations. Mais...
Et du coup, dans ton histoire, on a l'impression qu'il n'y a pas eu beaucoup de moments de vie assez longs ensemble, non ? C'est-à-dire, vous avez fait des week-ends ensemble. Et...
Vous avez fait de la moto ?
Plein. Ouais, mais ça c'est pas mal. Passion.
Ça. Ça c'est cool. Non,
mais la moto, on discute pas quand on est en moto. Vous avez fait des choses parce que je vais rebondir sur ce que Léna disait, c'est qu'il y a quelque chose de naturel aussi souvent. C'est-à-dire qu'on commence à faire des trucs ensemble, on fait de plus en plus de choses ensemble.
Et on fait des projets.
Et voilà. Et on commence à se projeter, etc. Et en fait, les choses se font un peu naturellement, même si on formalise pas en se disant est-ce qu'on est en couple, pas en couple. Bon oui, on est en couple. Mais comment ça va ? Eh ben en fait, les choses se font un petit peu naturellement. Et souvent, on peut quand même en parler, j'imagine, mais quand le couple se construit autour de moments comme ça, c'est clair, quoi. Ouais.
C'est un peu le problème du Covid et du confinement, en fait. Qu'on avait plein de projets, mais il n'y avait rien qu'on pouvait faire. Il devait m'emmener tirer, parce qu'il a une licence de tir, et toutes les salles de tir sont fermées.
Ah, oui.
Donc, on avait des projets de balade un peu plus longues. On devait aller faire
un petit tour à Rambouillet,
un peu plus loin pour faire de la moto en dehors de Paris et tout. Et en fait, on devait le faire genre là. Et il y a eu le reconfinement. Et en plus, il avait il avait acheté avec des amis un shop de fringues vintage. Les annonces, son shop a été fermé et il est parti à la campagne. Et en fait, en vrai, l'histoire, elle s'est pas clôturée et j'ai pas pu avoir de talk de fin.
Oh.
Parce que depuis, il est à la campagne et il est avec ses potes.
Mais tu sais, c'est peut-être pas encore fini. Parce que tu dis un talk de fin. Donc c'est peut-être pas encore fini là. Pour moi, c'est pas vraiment fini.
C'est pour ça que j'aimerais bien avoir une conversation avec lui.
Ouais.
Très honnête, mais après dans ma tête, je me dis que quand même, là, ça fait un mois qu'on s'est pas vu et s'il a pas plus tenté de maintenir la relation, même s'il y a le contexte et tout, je sais pas.
Envoie-lui le podcast.
Franchement.
Ouais.
J'y ai pensé. Mais il y a trop de délai entre le moment où on enregistre et vous le sortez.
On va s'arranger pour te faire un petit export. Demande gentiment à Mitch et puis tu feras un petit export son et tu lui enverras.
Ok.
Quoi ?
On apprend des choses. Ok, écoute, oui, Dan, moi je suis dans l'équipe de Dan. Je pense qu'effectivement, c'est pas forcément fini. En tout cas, il faut que tu aies cette conversation. Enfin, je dis pas ça en mode je te dis quoi faire, mais pour
si
toi,
t'as
en
envie,
tout cas,
si
c'est plus agréable d'avoir une conversation qui te permet
envie de refaire un peu de moto.
De dire.
Tu peux en profiter, quoi.
Après, ceci dit, maintenant, comme ton goût a évolué, peut-être que le prochain il sera tatoué. Avec une moto aussi. Comment ça se passe du coup quand t'es dans Paris? Tu regardes les mecs à moto qui s'arrêtent au feu rouge?
Tu dragues un peu au feu rouge, tu te mets au feu rouge.
Les chaussures bateau ont été remplacées par la moto, je me dis. Tu fais qu'un transfert de style.
C'est moto-moto ou scooter, ça marche aussi?
Est-ce que.
Bon, on passe à Léna.
Ouais.
Léna.
Oui.
Welcome back.
Ça va.
Est-ce que tu nous ferais un petit point sur là où t'en étais quand on s'est quitté la dernière fois?
Oui. Alors là où j'en étais, donc je sortais d'une relation qui a été très compliquée, toxique et qui m'a fait énormément de mal à l'époque, et je commençais une nouvelle relation qui était beaucoup plus saine, beaucoup plus douce et qui m'a fait beaucoup de bien.
Qui t'a fait passer.
Je parle au passé. Mon Dieu, le teasing. Oui, parce que ça s'est terminé franchement, il y a une semaine.
Ah
ouais.
Et de mon fait.
Bon,
faut que tu le racontes.
Mais C'est une très jolie histoire malgré tout, et ça reste quelque chose dont je me souviendrai avec énormément de tendresse et de joie. Mais voilà, en gros, on a commencé notre relation post-premier confinement. Ça s'est très bien passé. On a passé des vacances ensemble, donc 2 semaines seules dans un appart à la mer. Donc évidemment, c'est merveilleux. On communiquait hyper, hyper bien. C'était hyper doux, c'était hyper attentionné. C'était vraiment très, très beau. Une très, très belle relation avec... où on se racontait vraiment bien les choses et où il était vraiment au courant de ce que j'avais pu vivre avant et tout. L'été est passé, la rentrée est arrivée. À la rentrée, moi, j'ai eu de la chance, j'ai pu jouer une pièce, etc. Donc, je préparais ma pièce. Vous savez, peut-être ce petit moment où les théâtres étaient ouverts, là. J'étais dedans.
C'est juste, ouais.
Donc, j'étais hyper active, etc. Et lui, il était là à côté, il me soutenait vachement. Ensuite, j'ai passé des concours d'école de théâtre. J'ai été prise dans une école nationale.
Trop bien.
Ce qui est trop bien.
Ouais.
Merci. Mais ce qui fait que j'ai eu, dès octobre, un emploi du temps de bâtard. C'est-à-dire que tout de suite, j'avais des cours tout le temps, des stages, des auditions, des machins, etc. Malgré les confinements. Moi, j'étais jamais confinée, en fait. J'ai jamais... Mon travail ne s'est jamais arrêté parce que j'avais toujours une autorisation pour bosser et pour bouger, etc. Sauf que lui, il était complètement à l'arrêt.
Il est comédien aussi ?
Ouais.
Ah.
Et, ouais, ouais.
Et pour se rappeler, t'as un vrai palmarès de comédien derrière toi.
C'est ton critère à toi, c'est pas les bateaux, c'est...
Exactement, moi c'est mon critère, c'est voilà. Les comédiens.
Les comédiens.
Surtout. Et du coup, il y a une sorte de vrai déséquilibre qui s'est créé entre lui qui était du coup confiné, qui pouvait pas travailler. Il avait réussi à avoir un job alimentaire qui s'est arrêté avec le deuxième confinement. Donc lui, il était bloqué chez lui et moi, j'étais hyper active. Et je rencontrais plein de monde. Je rencontrais toutes les personnes de mon école, les promos au-dessus, les machins, les trucs, etc. Donc, gros problème de rythme. Ensuite, il a habité un peu chez moi pendant le deuxième confinement. C'était super la première semaine. Et après, c'était un enfer parce qu'en fait, il attendait beaucoup sur moi. Mais sans le faire exprès, je pense qu'il n'était vraiment pas conscient de sa part. Mais du coup, si j'étais en train de, je sais pas, de répéter un peu plus tard que prévu avec des copains de l'école, machin, je recevais un message, tu rentres quand, je t'ai préparé à manger, ça va être froid. Et moi, ça me...
Ouais, ça te stressait, quoi.
Ça me stressait complètement. Et surtout, et c'est là où la relation toxique, elle est revenue dans ma tête, c'est que j'ai remarqué les séquelles que ça m'avait laissées. Et c'est-à-dire que je pense qu'avec... qu'à un autre moment de ma vie, quelqu'un m'aurait dit des trucs comme ça, ça m'aurait un peu oppressé, mais bon, j'aurais dit, tu m'oppresses, mec, calme-toi.
Ça va, quoi. Ouais.
Sauf que là, en fait, ça m'a ramené à ce que j'avais pu vivre avant, etc. Et du coup, ça m'a complètement bloqué, paniqué. Tout de suite, j'étais là, il veut m'enfermer, il veut pas que je sorte, il veut que je sois qu'à lui, nanana, il attend trop sur moi. Et donc, ça a créé une dynamique de merde, parce que moi, j'avais plus envie de rentrer. Et en même temps, si je rentrais pas, je me sentais coupable, parce que je sentais que lui m'attendait. Ouais. Bref, grosse conversation à Noël, on en parle. Moi, je suis pas loin d'arrêter, mais en même temps, on s'entend trop bien et c'est trop. Et je sais à quel point il est pas toxique, quoi. Je sais que lui, c'est pas un pervers narcissique, manipulateur, tout ce que tu veux, là. Donc, bon. Donc, on continue, sauf qu'en fait, à partir de ce moment-là, c'était vraiment en dents de scie et une semaine sur deux, je me ressentais oppressée et je me. Et voilà, en fait, c'est quelqu'un qui est très, très attentionné, mais qui, du coup, avait. Mettait vraiment toute son attention sur moi et toute son énergie sur moi plutôt que de la mettre sur sa vie et lui ce qu'il voulait faire.
Ouais, parce qu'il n'avait pas vraiment la possibilité, quoi.
Exactement.
C'est ça aussi, ouais.
Et c'est ça qui est terrible et c'est là où c'est très injuste la situation actuelle parce que peut-être que s'il n'y avait pas eu le Covid, etc., etc., on s'est dit plein de peut-être et de si.
Ouais, ouais.
Le problème, c'est que c'est plus une période qu'on vit, c'est une époque et on ne peut plus faire comme si ça allait passer et que la vie normale allait revenir dans une semaine ou dans 2 semaines. Je pense que c'est important aussi de voir avec ce qui se passe là comment on peut avancer malgré tout. Et lui, voilà, il n'y arrivait pas, quoi. Et sauf que moi, de mon côté, j'étais sur une sorte de... Comment dire ? Pente
ascendante,
quoi. C'est, plus ça allait, plus j'avais des trucs, plus j'avais envie de faire plein de choses et plein de vie et plein de rencontres et tout. Et lui, c'était l'inverse. Et Et ça, voilà, ça a participé complètement à la... à la descente de cette relation quoi, dans les tréfonds du désespoir.
Et du coup, comment, du coup tu lui as dit, enfin tu lui as dit, vous avez une discussion et...
Ouais ouais, en fait on avait beaucoup de discussions parce qu'on communiquait très très bien, mais je pense que lui il a pas saisi la, l'importance que ça avait pour moi en fait, ce que je disais. Enfin, j'avais vraiment l'impression de lui dire ce qui se passait pour moi, mes sensations et tout, mais je pense que lui il avait encore un peu un, peut-être une, je sais pas si c'est une forme de déni, mais en tout cas c'est une forme de
Bah, il s'accrochait, okay, quoi, c'est ça.
Il s'accrochait et puis il disait ok ok, mais du coup ça va aller, t'inquiète pas, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, et ça va aller. Sauf que derrière ça repartait un peu à zéro quoi. Mm. La discussion elle avait rien changé vraiment. Et là ouais, il y a en, fin mars on a commencé à parler tous les deux, où j'ai dit que j'étais vraiment malheureuse, parce que ça me, c'est vraiment, ça me rendait malheureuse, ça me rendait très très triste. Je sentais que la relation elle devenait comme un poids pour moi. Et ça, ça pue, quoi. C'est, mmh. C'est pas cool. Donc, beaucoup de discussions. Et là, voilà, on s'est quittés il y a pas longtemps. Et, mais, je sens, mais ce qui est terrible et ce qui m'a rendue très, très triste, c'est que quand j'ai rompu, j'ai senti que j'avais raison de le faire. Et ça m'a rendue triste de me dire que la bonne chose à faire, c'était de rompre. Mais c'est vraiment ce que j'ai senti profondément, quoi. Voilà. Donc, mais... c'était hyper réparateur. J'ai senti aussi que de le rencontrer lui, de vivre cette relation-là, ça m'a permis de reprendre confiance un peu dans l'autre, et notamment dans l'autre homme, de me dire que ok, ça existe un homme qui est gentil, qui est attentionné et qui veut ton bien et qui est à l'écoute et qui va vraiment ouais, t'aider, te porter et te porter dans le bon sens, hein, parce que voilà. Pas te porter comme un sac.
Vous avez compris. Ça t'a aidé à te réparer de ta relation toxique précédente. Enfin, c'était dans le bon sens.
Ouais, ça m'a carrément aidé sur plein de points. Après, j'ai aussi vu que l'autre relation, elle était quand même dans un coin malgré tout, et qu'il y avait plein de choses en fait où voilà, des trucs que mon ex pouvait faire où ça me rappelait ma relation toxique.
D'accord.
Des mots, ou des gestes, ou des comportements, où d'un coup, ça me mettait totalement en retrait, parce que je voyais à quel point c'était encore présent. Et c'est notamment présent parce que ce qui est merveilleux dans cette histoire, c'est que j'ai intégré donc cette école nationale qui est merveilleuse et dont je suis très heureuse. Mais le monsieur de la relation toxique y est également.
Non. Ah ouais. Oh.
Mais il est deux promos au-dessus, il s'en va cette année, donc tout va bien.
Mais voilà. Du coup, vous êtes croisés là-bas ?
Du coup, on s'est croisés là-bas. Ah ouais. C'est croisé.
Ça t'a mis mal ou...
Ouais, ça m'a mis... Ça, franchement, ça m'a vraiment mis très mal.
Quelle horreur.
Ah, c'est un enfer. Mais bon, c'est bientôt fini, donc je garde la tête haute et voilà, tout va bien. Mais non, c'est compliqué. C'est très compliqué. Moi, j'ai fait comprendre la direction que je voulais pas être avec lui, être le moins possible avec lui dans des cours, dans des trucs, dans des machins, et que vraiment... Et lui, ce qui est terrible, c'est que étant un peu jeté, c'est quelqu'un qui va changer un peu de technique selon le moment, quoi. Donc c'est à dire qu'au début de l'année, on s'ignorait complètement, et puis là, il y a un mois, il y a eu un événement qui a fait que on s'est tous retrouvés au même endroit, que je présidais un peu l'assemblée et que il rigolait à toutes mes blagues, qui me regardait, qui était là. Léna. Et je suis en mode, mais ça va pas la tête. Et moi, et dans mon cerveau, il y avait vraiment ce truc que je me disais, oh, il est fou. Qu'est-ce qu'il fait? Non. Donc, bon, il y a toujours un peu ce truc de panique, mais ce qui est triste et bien en même temps, c'est que dans l'école, il y a une autre fille avec qui il est sorti, avec qui ça s'est extrêmement mal passé comme moi.
Ah.
Avec qui je suis devenue amie.
C'est alors, pas mal ça.
Ouais.
Voilà. Donc,
vous en discutez ?
Oui, on s'est vraiment, on a pris un thé, on a dit vas-y, on se raconte. Et ce qu'on s'est raconté, ça nous a beaucoup choqué sur plein de trucs, parce qu'il y avait des choses très similaires, donc ça faisait un peu flipper. Et puis, par exemple, il y avait des aspects que moi, j'avais pas, ou qu'elle, elle avait pas. Elle m'a appris qu'il était mythomane, par exemple. J'étais là, ah, ben ça, je l'ai pas eu, tiens. C'est marrant, parce que j'ai eu beaucoup de trucs, mais pas ça. Et, mais du coup, on s'entraide beaucoup, et il y a une vraie sororité, en fait, là-dedans, quoi. Toutes les deux, on est vraiment ensemble, et du coup, ça va. En vrai, ça va. Mmh. Voilà, quoi.
Disons, ça crée SAV. Hein.
Ouais, ouais, c'est clair, c'est clair.
Quelles aventures.
Quelles aventures. Mais là, là, donc, toi, ça va, là.
Bah, là, ça va. Et puis, il se trouve que...
Un comédien.
Ouais.
Oh, nouveau là, comédien.
Dans l'école aussi, ou...
Ok, on n'en saura pas
ça
plus.
Veut dire oui.
Mais
je veux
non,
dire
mais...
troisième SAV.
Non, non, mais c'est. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Hein. C'est vraiment, bah, justement,
c'est tout frais, quoi.
Un début, c'est tout frais, etc. Mais c'est vrai que ça, cette rencontre-là m'a confirmé ce qui manquait avec mon ex. C'est le fait que voilà, il y avait énormément d'amour entre nous, mais il y avait plus le sentiment amoureux, parce que c'est ça en fait aussi que j'ai dit en rompant là, c'est que j'ai dit que je l'aimais de tout mon cœur et que j'avais énormément d'affection, mais que je me sentais plus amoureuse de lui, désirante, l'alchimie, tout ça quoi. Et cette nouvelle rencontre m'a confirmé cette chose là que je sentais déjà, où je me suis dit ok, oui, donc il y a bien cet aspect là qui est plus dans la relation que j'ai, quoi.
En tout cas, ce qui est bien, c'est de savoir que t'as pas remis du tout en cause ces critères de sélection des mecs. Contrairement à Alice. Parce que alors là, c'est vraiment les mêmes, quoi.
Si.
Dis bon, ça marche pas. Bon, vas-y, je réessaye.
Non, c'est pas les mêmes. Mais non, en fait, mais par contre, en termes de. Moi, je sais pas si j'ai des critères, mais par contre, je sais que ce que j'ai compris après ma dernière relation, là, c'est que ce qui est important pour moi, c'est que la personne en face.
La comédienne.
C'est que la personne en face, elle ait sa propre vie, ses propres envies, ouais, et ses propres motivations. Parce que moi, j'ai les miennes, je le sais, et j'ai besoin que la personne en face, elle ait les siennes, et que chacun ait sa vie, et chacun ait ses trucs, pour qu'après, on puisse potentiellement vivre quelque chose ensemble. Mais de pas sentir que l'autre s'appuie sur moi ou quoi. C'est ça qui. Ça va être un beau critère. Et puis l'écoute aussi. Que la personne soit à l'écoute. Très important.
Ah, alors, chez un comédien, normalement, il devrait être à l'écoute si on
c'est
est habitué
quand même
à jouer.
C'est ce qu'on nous apprend.
Ouais, c'est ouais.
C'est quand même une des
c'est,
bases.
C'est la base.
Eh
ah
oui.
Ouais, mais tous les comédiens sont pas bons. Hein.
Ah bah, t'iras chez les musiciens après. Ils sont censés écouter aussi.
C'est vrai.
Les psys.
Les psys.
Non, ma mère est psy.
Ah ouais, les psys sont à l'écoute.
C'est bon.
Il y a un truc. Ouais. Ah, cool. Bon, bah, merci.
Mais je...
On continue avec
Valentine. Peut-être que.
Ah,
non, mais
oui,
peut-être que Alice et Valentine, vous voulez réagir.
Vous aviez peut-être
un témoignage de Léna.
Quelque chose qui vous a marqué dans ce qu'elle a dit et qui...
Peut-être quelque chose que vous voulez critiquer. Non, je rigole.
Je n'approuve pas du tout tes critiques.
Non, je rigole, non, évidemment, si vous avez une réaction.
Je trouve ça bien que de voir que à nos, enfin, il n'y a pas d'âge, mais qu'à nos âges, les relations qu'on a vraiment nous aident en fait à petit à petit se diriger et de voir. Je pense que là où on rencontrera toute notre vie potentiellement des mecs qui nous correspondent pas du tout et des abrutis et des pervers narcissiques, etc. Mais l'expérience et la maturité fera que peut-être on les dégagera plus vite, en fait. Que d'avoir eu des expériences avant nous permette de plus rapidement sentir les red flags ou les choses qui, nous, on sait, ne peuvent pas matcher avec...
Mais j'ai l'impression que... Oui, complètement. Mais tu vois, par exemple, avec ce que j'ai pu vivre avant, moi, j'ai un, deux, trois. J'ai vraiment la sensation de tu vois, les red flags, de les voir à 5 km, quoi, mais vraiment. Et même les mini red flags, parce que même celui avec qui j'étais pendant un an, là, qui est vraiment un homme extraordinaire, quoi, mais... j'avais un red flag dès le début et je me suis pas trompée, quoi. Mon red flag, c'était il est extraordinaire, mais il est pas passionné comme toi et il va peut-être s'appuyer sur toi. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et du coup, j'ai la sensation que plus tu vis des choses, plus tu t'apprends à voir les red flags et à t'écouter, en fait. C'est plus que de les voir, à dire...
Te faire confiance.
C'est la ça, cette première sensation que t'as, c'est la vérité. C'est pas une histoire de première impression, de machin, de truc. C'est vraiment... une sensation que t'as quand tu rencontres quelqu'un, quoi. Et pareil, pour les pervers narcissiques, alors là, 5 kilomètres, je les vois faire, et ça ne m'intéresse pas.
Très bien. Valentine, on passe à toi. Tu nous fais un petit.
Tu étais venue nous parler du mal alpha.
Alors moi aussi, j'ai parlé dans cet épisode des critères en fait. Ouais. Un peu, ça rejoint. Hein. De ce qui me plaisait, de ce qui m'attirait chez les hommes, mais j'ai employé un terme dangereux.
Qui a fait polémique.
qui était le mal alpha. Mais justement, dans l'épisode, je disais, je crois que c'était ça mon but. Je disais, on a dit en rigolant, il y a les bons mal alpha et les mauvais. Donc en fait, il y a pas de définition universelle et c'est une expression qui est utilisée pour décrire aussi des choses qui relèvent de la domination masculine et qui sont pas cool. Et moi, très clairement, je voulais montrer que dans les traits de caractère que je mets sous cette appellation, il y a des choses très positives, comme par exemple prendre l'initiative, être dynamique, avoir de l'audace, comme a dit Alice, ou qu'est-ce que tu as dit, tu as aussi dit des trucs, que ce soit quelqu'un de fiable, enfin voilà, j'essayais de montrer tous ces trucs positifs. Qui sont d'ailleurs pas forcément masculines, mais qui inspirent confiance. Je disais, voilà, c'est quelqu'un qui rassure, mais qui assure aussi. Tu as dit, voilà, qui a sa propre vie, qui a sa propre dynamique, tout ça. Donc, et je disais que la plupart des filles qui ont témoigné chez vous disent la même chose. Et ben là, je vois qu'elles. Non, en fait, il y a des trucs qui convergent quand même dans ce que vous dites. Vous dites que vous voulez quelqu'un qui est dynamique, mais sur qui, enfin, en qui vous pouvez avoir confiance, mais qui a aussi sa propre vie. On a besoin, je disais, on a besoin d'admirer tout ça, voilà. Et je disais ça aussi beaucoup parce que là, j'ai amené. Parce que je voyais mes amis hommes se plaindre que c'était toujours les autres mecs qui plaisaient plus. Et quand j'écoute votre podcast, parfois j'ai l'impression que c'est aussi ce que vous vous demandez, quoi. Mais c'est quoi ce mec-là qui plaît à toutes les femmes? Qu'est-ce qu'il a de plus et tout ça?
Moi, je me pose pas trop ces questions-là.
Allez, pour toi, celle-là.
Donc, c'était un peu un message aussi pour tous mes potes qui ont l'impression qu'il y a toujours un autre mec qui va nous plaire plus et tout ça. Qu'est-ce qu'il a? Est-ce que... Et toi, tu disais charismatique dans l'épisode que j'ai fait. Là, je m'adresse à Dan. Tu emploies le terme charismatique. Et donc, il y a un article de Maya Mazorette qui, je pense, qui a fait pas mal parler il y a peut-être 2-3 semaines dans Le Monde, où elle dit, justement, elle emploie le terme de mal alpha. Et elle parle des exclus du marché du mal alpha. Donc elle explique, elle se base, je l'ai amené parce que c'est dur de retenir le nom, c'est une biologiste allemande qui s'appelle Maike Stover-Rock, qui dit qu'en fait, il n'y a que 20% des hommes qui sont attirants. Bon, alors après, moi, j'ai pas lu le
bouquin. Est-ce que ces 20% des hommes attirent les 80% de femmes? Est-ce qu'on est encore dans la loi de Pareto?
C'est ça. Si, c'est
encore
ça.
Une fois,
et en fait, les hommes sont attirés par 80% des femmes, en moyenne.
Ah,
les
oui.
hommes sont attirés plus ou moins par toutes les femmes, quoi.
En gros, les hommes plus sont des charros.
C'est ça. Donc, des fois.
Qu'est-ce que vous pensez, c'est vrai ou pas?
Attendons la fin de l'explication.
Donc, les femmes ne seraient attirées que par 20% des hommes. Donc, après, dans l'article de Maya Mazorette, elle explique que la biologiste, qu'elle propose des solutions, mais c'est des trucs que moi je trouve de dingue, parce que je sais pas, elle explique pas les causes, je crois, ou enfin pas dans l'article en tout cas, et elle dit qu'en gros, il faudrait que les mecs, ben, tant pis quoi, vous aurez pas les meufs que vous voulez, alors du coup, vous avez qu'à regarder plus de porno, enfin, moi je trouve ça dingue, mais
non,
du
mais
coup...
C'est déjà le cas, non?
Oui, bah oui, t'as raison. Mais moi, en fait, je trouve que c'est intéressant de se demander c'est quoi, qu'est-ce qu'ils ont là, ces 20%, qu'est-ce qu'ils ont de plus. Et donc, c'est pas les plus musclés, les plus grands, les plus beaux, les plus riches, pas du tout. En fait, ce sont des qualités que vous pouvez tous avoir. Et j'ai donc un énorme plaidoyer pour les hommes, en fait. Voilà, il suffit de savoir prendre l'initiative, nous inspirer confiance, organiser les vacances. Je sais pas moi.
La sécurité.
Faire du bricolage là. Qu'est-ce qu'il a fait? Un grillage pour le chat. Enfin voilà. Il y a des trucs simples en fait que vous pouvez faire pour élargir ce 20%.
Tu veux dire les 80% des hommes.
Je vais donner mon avis après.
Là, tu es en train de dire que les 80% d'hommes qui n'intéressent pas les femmes, ils savent pas bricoler, ils savent rien faire.
Mais ah moi, si,
je
ils savent bricoler, mais c'est pour chez eux.
Qui n'ont pas forcément. Qui ont ces qualités là, mais qui n'intéressent pas forcément.
Ah bon?
Ouais.
T'as des exemples?
Valentine, elle est intéressée. Non,
après, moi, je vais aller sur un autre terrain qui serait plutôt, qui serait plutôt les défauts plus que les qualités.
Vas-y.
Bah, c'est plus des défauts que ces 20% ont. Ils ont des défauts de plus. Et ces défauts les rendent attirants.
Non, justement, moi, c'est moi j'ai voulu casser ça.
Les corriger.
C'est ce que vous avez dit un peu dans mon témoignage. C'est ce que me disent tous mes potes mecs. J'ai des exemples. Un de mes potes mecs, on parle ça depuis. Enfin, ça fait, je sais pas, on est amis d'enfance, donc ça fait 30 ans qu'on parle de ça. Il est assez beau, en fait. Mais lui, il dit toujours, ah, mais vous êtes intéressé que par le beau mec charismatique qui parle bien avec les nanas.
C'est pas vrai.
Et comme Dan, il dit, oui, mais en fait, lui, c'est un connard. Après, il va vous jeter. Et puis, vous dites dans l'épisode que j'ai fait, vous dites, mais en fait, il peut pas être fiable parce que s'il plaît aux femmes, après, il va te tromper. Et non,
mais j'ai dit ça, non.
Oui.
Moi ce que, là, sur la beauté, je le sais. Après, c'est un constat que j'ai fait avec mes yeux, donc j'ai pas noté, mais je vois dans la rue des hommes qui sont pas particulièrement beaux, qui sont juste normaux et ils sont en couple. Donc au final, c'est pas la beauté qui fait le critère. Sinon, il y aurait que des moches qui seraient célibataires.
C'est pas que les beaux parleurs et tout ça.
Non, mais je parle du beau physique. Moi, je les connais pas, ces gens-là. C'est juste quand je les croise dans la rue.
Beau physique, en vrai, c'est complètement subjectif.
Et voilà.
En fait, il y a pas de beau physique. Ouais. Et en plus, là, vous avez vu, il y a une étude qui est sortie qui dit que 75% des femmes préfèrent les mecs avec des ventres plutôt que des abdos.
Wow.
Et moi, j'en ai encore de chance.
Trop bien, quoi.
On a encore de chance. Enfin,
voilà, avoir un peu de bite, c'est mieux que d'avoir des abdos de ouf.
Oui, mais après,
les six-pack.
C'est pas juste des ventres. Enfin, je veux dire, ils ont plein de. Je suis pas sûre que si on leur pose la question, les filles disent je me suis mis avec lui parce qu'il a du ventre.
Exactement. Non, mais t'as raison.
Réducteur.
Exactement.
Mais en tout cas, c'est pas un critère d'avoir des abdos de fou.
Moi, je pense qu'il y a un truc. Je pense que ton épisode a fait polémique, mais surtout à cause de l'appellation.
Ouais.
Parce que l'appellation mâle alpha, ça renvoie à patriarcat et tout ça. Alors qu'en fait, ce que tu dis dans l'épisode, tu dis des trucs. Finalement, voilà, partagé par plein d'invités, que le mec soit fiable, qu'il soit beau gosse, enfin, à ton goût. Tu vois, t'as dit aussi des trucs, toi, par rapport à qui te plaisait dans la sexualité, des pratiques que toi t'aimais bien, mais peut-être qui changent avec d'autres. Donc, en fait, c'était vraiment l'appellation.
Ouais, c'est l'appellation.
Et c'était ça qui a un peu choqué, ou qui a un peu, en tout cas.
Mais du coup, c'est tout l'intérêt de votre podcast. Et parce que du coup, j'ai beaucoup réfléchi après à ça, j'en ai parlé avec mes copines et tout ça, plus l'intérêt de votre compte Instagram, donc je recommande à tout le monde d'aller le voir, parce que du coup il y avait ces commentaires et moi ça m'a poussée à lire, enfin à aller voir, bon c'est des trucs, donc il y avait des commentaires de féministes en fait qui expliquent que le mâle alpha c'est le mâle dominant hégémonique et tout ça, et qui donc va dominer les femmes et leur faire du mal et tout ça. Donc après moi je suis allée lire pas mal de trucs, ça m'a permis de...
Enfin tu peux dominer sans faire du mal.
Ça dépend dans quelle situation, en fait. Ça dépend dans quelle situation.
Ça dépend, mais donc c'est possible.
En tout cas, moi, ce que je disais, c'est que j'ai jamais été dans des situations où j'ai fait des trucs sans consentement. Je me suis jamais sentie dominée parce que moi-même, j'ai un caractère très fort. Et je crois que l'une de vous vient de le dire, c'est-à-dire, quand on a un caractère fort, on peut aussi aimer que l'homme ait aussi un caractère fort. Et du coup, on se sent pas du tout dominé, quoi. Mmh. Voilà. Mais ce, quand même, sur quoi j'ai évolué grâce au podcast, c'est que je disais, moi, que c'était aussi d'après des lectures que j'avais faites d'anthropologue et tout ça, que ce désir pour ce type d'homme-là, là, ces fameux 20%, d'ailleurs, c'est une biologiste là, que je viens de citer, que c'était quelque chose de naturel, en fait, et qui existait depuis la préhistoire. Et ça, c'est quelque chose que les féministes contestent. Et maintenant que j'ai pas mal lu depuis le podcast, je comprends que c'est, en fait, nos désirs. Ça, c'est, pour moi, c'est une énorme révélation existentielle. Nos désirs, on croit qu'ils sont spontanés, mais pas du tout, en fait.
Donc, c'est instinctif. Tu veux dire?
C'est pas instinctif. Nos désirs sont hyper construits socialement, quoi. Depuis que t'es petit, en fait, on va te donner des modèles. D'ailleurs, comme on sait, même les modèles physiques, par exemple, ont évolué au cours de l'histoire. Mmh. On te donne des modèles et toi, tu crois que c'est ton goût personnel à toi. Et en fait, pas du tout. C'est un construit social
Je comprends pas, moi, la notion de construction sociale. Ça veut dire qu'on serait tous construits pareil, si c'était le cas, non? Pourquoi on n'est pas tous construit exactement pareil, avec les mêmes désirs exactement? Là, on est 7 personnes autour de cette table, on a 7 désirs différents.
Ça dépend d'où tu viens, je pense.
Ouais, je pense qu'il
a été éduqué.
Mais non, mais parce que si c'est une construction sociale, comment ça se fait qu'on n'est pas tous pareils?
Déjà, selon les classes sociales, ça, voilà, maintenant les féministes l'ont montré. Hein, selon les classes sociales, t'as pas le même désir pour le même genre de personne, déjà d'un point de vue social. Et après, t'as aussi, bon, évidemment, tu peux.
Mais par contre, ça va à l'encontre des 20% du coup. De ce que tu dis. Parce que tu dis, finalement, chaque classe sociale a un peu des goûts différents et du coup, ça veut dire qu'en fait, les 20% n'existent pas.
Non, parce que...
Parce qu'il n'y a pas 20%...
Ouais, c'est une bonne question. Non, non, moi je pense qu'après il y a des nuances. C'est-à-dire que dans les 20%, tu vas trouver des caractéristiques communes et après, selon les classes sociales et surtout aussi selon ton histoire familiale. Franchement, après tu rajoutes toute la psychanalyse et toutes tes névroses et toute ton histoire familiale. C'est ça aussi qui va façonner ton désir.
Il y a beaucoup de nuances aussi, je pense, par rapport à dans l'ensemble et dans le désir et dans le désir de chacun et dans la manière dont il est fabriqué. Je pense que les deux aspects se tiennent. Autant ce discours de 20% se tient, autant le fait que c'est une construction se tient. Aussi, et je pense que c'est dans la nuance entre ces deux extrêmes qu'on se retrouve.
Donc, en tout cas, moi, ça m'a fait évoluer parce que je me suis dit, ok, donc mon désir, il n'est pas si instinctif et spontané, en tout cas, pas si personnel, quoi, en fait. Je suis à mort dans les statistiques, je prouve tous les trucs des statistiques, je suis complètement influencée socialement. Et je trouve que ça m'a apporté quelque chose, donc merci à vous, les gentils hommes, ça m'a apporté quelque chose d'hyper important,
surtout.
C'est que, en fait, avant... Les mecs qui sortaient des 20%, là, pour moi, s'ils me draguaient, je les envoyais chier, quoi. C'est-à-dire, tu me plais pas, quoi. T'es pas dans mes critères, vas-y,
t'es
dégage.
T'es pas dans les 20%. Allez, dégage.
Mais je le savais pas, en fait. Ouais, j'avais pas conscience que c'était
toi,
que 20% des mecs. Mais en gros, si le mec, il était pas dans mes critères, j'étais pas sympa, quoi. Et maintenant, je me dis, oh, le pauvre, il fait partie des 80% qui se prend des râteaux tout le temps.
Attends. Mais moi, j'ai juste donc... un truc. Peut-être que les 20%, c'est ceux qui prennent l'initiative et les 80%, déjà, ils viennent pas. Donc, comment tu fais pour les atteindre. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais, c'est une bonne question, mais là aussi c'est une histoire de nuance. T'as plusieurs manières de prendre l'initiative, quoi. Par exemple, je vais vous dire un truc qui me revient. Une fois dans une soirée, c'était il y a hyper longtemps, hein, j'étais jeune, il y a un mec, visiblement je lui plaisais, et il est venu me voir déjà à la fin de la soirée. Il a attendu que je parte. Déjà, bah, c'est pas hyper prendre l'initiative, voilà. Il a attendu que je mette mon manteau et que je parte et tout. Et il m'a dit, comment on fait pour revoir une jolie fille comme toi? J'avais envie de dire, bah, mec, c'est pas moi qui vais te donner la recette, quoi. Démerde-toi, enfin. Je veux dire, il est en train
là,
de se mettre dans une position. Non, mais je lui ai pas dit, mais j'ai même pas répondu. C'est-à-dire, c'est pas moi. Mais c'est toi qui me drague. Déjà, toi, à la base, tu m'intéresses pas.
Fais un truc,
quoi.
Cherche un type de mec.
Donc lui, il est pas dans les 20%, on est d'accord.
Lui, ben non, on peut dire, tu pourrais dire qu'il a pris l'initiative. Il a pris l'initiative de venir me voir en me disant, donne-moi la recette pour te draguer. Ah, bah, déjà, ça, c'est pas sexy, quoi.
Tu penses pas plutôt qu'il y a 20% pour chaque personne? C'est plus logique, non? Parce que toi, t'as 20% de mecs qui vont te plaire et Léna, elle a 20% de comédiens et il y a 20% de rockers. Tu vois, chez Alice, c'est plus cohérent quand même parce qu'on est d'accord, le comédien de Léna, tu vas peut-être pas le kiffer parce qu'il va pas, tu vois, il va pas. Déjà, il est comédien, hein, premièrement. Le rocker, il va même pas te parler parce qu'en fait, il s'en fout et il va pas aller te parler en soirée, donc tu vois.
Ouais, non, mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que maintenant, je suis beaucoup plus indulgente. En fait, je trouve que, voilà, je pense que tout le monde, c'est compliqué, quoi, les relations, et que du coup, s'il y a des gens qui correspondent pas à tes critères, faut être gentil quand même.
Mais
c'est important, voire même, faut leur donner plus de chance, quoi.
Du coup, si le mec, il te fait la même aujourd'hui, tu fais quoi? Il fait la même chose, fin de soirée, il vient, il te dit comment on fait pour te serrer.
Ouais, maintenant je pécho tout le monde, on sait jamais.
Je suis le pécho d'office, quoi.
Peut-être qu'il va se révéler des trucs. Voilà. Peut-être je vais lui apprendre à devenir.
Devenir le
dynamique et tout.
Exactement.
Peut-être.
Ah, mais là, si on parle là, ça veut dire que tu vas le changer.
Ouais, j'avais dit le contraire. Hein. Quand vous m'aviez posé la question, j'avais dit non, il change pas et tout. Mais si, je pense qu'on peut changer.
Ah, tu penses que.
Ah ouais?
Non.
Non, justement.
Je pense que toi, tu peux
c'est
le
pas
changer.
À moi. Non, c'est pas à moi de les faire changer.
Voilà.
En revanche, comme je suis plus indulgente, j'élargirai mes critères, en fait. Je me dirais pas, oh, ben, le mec, si déjà il attend que ce soit moi qui fasse tout le boulot, c'est naze. Non, je me dirais pas ça. Je me dirais, ok, il est peut-être timide là, mais peut-être qu'en fait, le mec il s'est bricolé à mort et c'est génial, il va faire tout le bricolage chez moi.
Bah, refaire ma maison, c'est un truc de
ouf. Non, mais parce qu'elle dit qu'elle élargirait ses critères et je trouve ça intéressant parce que je me dis, est-ce qu'en tant qu'homme, nos critères ils sont pas déjà élargis au maximum?
Bah oui, vous c'est 80%. Donc,
tu vois.
Non, mais après, je pense aussi que nous on a des critères
oui,
plus ou moins larges. On en a déjà parlé, quoi. On a des critères aussi plus ou moins larges quand même.
C'est-à-dire selon les gens. Selon les.
Oui. Bah, on a. Il y en a parmi nous qui sont plus ouverts, qui sont moins ouverts. Voilà.
Est-ce que ceux qui sont plus ouverts sont plus installés en relation, du coup?
Regardez lui.
Moi, je suis tout ouvert, moi, c'est fermé.
Non, mais toi, tu peux avoir des critères théoriques.
C'est ça qu'il faudrait regarder.
Non, mais c'est vrai, critères théoriques.
Est-ce que ceux qui ont des critères plus larges sont plus souvent.
Pécho plus souvent?
Tu parles des hommes ou des femmes?
Tout le monde, quoi.
Je trouve ça intéressant des deux côtés, de savoir.
Je sais pas si okay. ça se
dit. J'aurais tendance à dire oui, en prenant mon expérience personnelle. Mais...
Est-ce qu'avoir des critères très larges et du coup pas se fermer de porte,
ouais.
c'est
bah, y a des chances
qui peut t'amener
même.
À être en couple, ou est-ce qu'au contraire avoir une vision très précise de ce que tu cherches?
C'est une bonne question.
Ouais, c'est une super bonne question. En fait, c'est ouais. plutôt, moi, à mon avis, si t'as des critères très larges, t'as plein de relations, mais elles durent pas forcément, non?
Non, pas forcément, parce que non. si t'as des critères larges, tu peux avoir, tu laisses rentrer plus de choses dans la relation.
Ouais, c'est
tu peux dire, il y a ça qui me va pas, mais comme c'est large, tu restes avec la personne parce que ça rentre dedans.
Ouais. Et c'est vrai que si t'as des critères trop spécifiques, peut-être tu projettes trop des attentes.
Ouais. Et c'est rapidement excluant, puisque au moindre premier critère, tu dis, bon, t'es plus dans le game, salut.
Exact.
Mais surtout qu'un des enseignements que j'ai retenu d'un épisode de Nat et Véro,
qu'on salue, on les embrasse, les filles.
Très fort.
Elles sont dans les 20%, elles, je crois.
où elles avaient interviewé un homme qui était en couple, je crois, depuis 50 ans ou quelque chose comme ça, et elle lui demandait...
T'arrêtes, conne.
Pardon. Elle lui demandait le secret un peu d'une relation qui dure, et elles étaient directement parties sur c'est la communication, etc. Et il avait dit, non, moi, ce que je pense ce qui fait que ma relation a marché aussi longtemps, c'est la résilience. C'est en fait... J'ai quelques critères non négociables, mais pour tout le reste, en fait, je suis capable de faire des...
D'être OK, quoi.
Il y a des trucs où, au final, même de communiquer, on ne sera jamais d'accord. Donc, à part nourrir une frustration des deux côtés, ça ne sert à rien.
Ouais, moi, je suis d'accord avec ça. Et en même temps, Léna, c'était intéressant, là, ta dernière relation, ce que tu racontes, c'est que... Mais tu fais des concessions, mais à un moment donné, il y a trop de différences, quoi. Il y en a un qui est hyper dynamique et l'autre non, et ça colle plus.
D'où l'intérêt de savoir vraiment où sont les points de divergence qui seront pas...
Donc c'est là où tu reviens aux critères, tu vois. C'est-à-dire que moi, dans mes critères, je veux un mec qui soit en gros dynamique et qui assure et tout ça. Et du coup, je pense que c'est quand même important de le garder, parce que sinon, il y a trop de décalage.
Attends, tu viens de dire que tu allais élargir tes critères, donc il faut quand même qu'il soit dynamique et qu'il assure. Mais ce que je veux dire,
c'est que peut-être qu'avant, je plaçais ce... Enfin, comme je l'ai dit aussi dans l'épisode, quand on a enregistré, j'ai dit, on peut être mâle alpha ou femme alpha, peu importe, on peut ne pas l'être 100%, on peut l'être, en partie. Et du coup, comme j'attendais que, dès le début, quoi, que je vois tout ça, je pense qu'il y a des choses qui peuvent se révéler dans ce caractère quand même fiable, dynamique et tout, mais que tu vois pas au premier abord, tu vois pas la première date par exemple. C'est en ça que je peux élargir mes critères, mais franchement, honnêtement, je sais que je vais pas les élargir à mort, parce que malheureusement c'est hyper dur de changer son désir. Ça, c'est aussi ma psy qui me l'a dit. Elle est attirée par les comédiens, et c'est mort, tu vas être attirée toujours par des comédiens.
C'est pas vrai, c'est pas vrai.
Non, trop, c'est pas changé.
Vrai. Pas que.
Mais tu peux pas trop changer ton désir, mais voilà, tu peux être au moins indulgent. Voilà, essayer quand même de faire des petits efforts et ça, ouais, voilà. Essayer de moins juger.
Ouais, et il y a un autre truc encore, c'est que là, pour rebondir sur Nat et Véro, une histoire, c'est long aussi. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des critères, mais on change.
De partenaire.
Évidemment, c'est une des clés de la réussite. Dan, je te l'offre, celle-là. Tu vois,
c'est ça.
Mais à un moment, t'es en forme. Là, le mec, il est pas en forme, il est au fond, mince, comment ça se passe? Est-ce que je le tiens, je le tiens pas?
Et puis tu changes, effectivement, au fil de la relation. Là, ça a duré un an, c'est pas très long, mais c'est quand même un an. Donc c'est bien, quoi.
C'est quand même bien, hein.
Un an, tu bouges, en fait, vraiment. Les événements de la vie font que peut-être aussi tes désirs, ils vont à un autre endroit. Peut-être que t'as des intérêts qui se créent pour d'autres choses, etc. Et c'est clair que le chemin que t'as emprunté au début avec la personne, peut-être qu'il... Il prend des petites branches.
Et là où je rejoins Pascal là-dessus, moi, c'est que si t'as pas mis trop de critères, et ben peut-être que la branche qu'elle va emprunter te va très bien, en
fait.
Alors que avant, t'aurais dit non, moi, j'irai jamais là. Et puis en fait, non.
Tout à
ça
fait.
Va. Alors allons-y. Et puis on y va ensemble.
Et parfois, non.
Et parfois, c'est pas possible parce que c'est vraiment le truc que tu peux pas, quoi.
Merci
beaucoup.
Une grande question, tout ça.
Vous avez des questions pour nous, c'est ça?
Est-ce
que vous avez des questions?
Mais si jamais vous avez des questions, sachez que vous pouvez.
Encore une. Justement, là, vous avez dit qu'on était des bavardes, mais je pense qu'on voit qu'on est des filles avec du caractère. Donc, une des autres grosses questions, est-ce que c'est quelque chose qui fait peur aux hommes?
Une fille avec du caractère ?
Ouais.
Alors aux hommes,
je sais pas. Non,
c'est pas pardon. Ah non, c'est compliqué de généraliser. Je crois qu'on était à question pour
c'est
les mecs.
C'est compliqué de généraliser.
Non, mais non, c'est
généralisé. À vous.
Ouais, on peut pas répondre pour tous les hommes.
Non, allez, moi ça me fait pas peur. Ça me fait pas peur. Au contraire.
Moi je dirais au contraire, c'est cool parce que c'est justement. Ouais, c'est plutôt une qualité quoi.
Ça dépend du caractère.
Ah, Conny l'aime pas.
Ah ouais. Non. Ça dépend ce qu'on entend par caractère.
Quel qu'il soit, allons-y quoi.
Qu'est-ce que tu entends par caractère, tiens?
Alors, je crois que c'est j'ai pensé quand tout à l'heure, Alice, tu as dit que tu étais extravertie, je crois que tu as dit, et que, je sais pas, tu avais l'air de dire que c'était tes copines qui te trouvaient trop...
Oui, insortable.
Insortable, voilà.
Et tu disais,
en fait, j'aimerais rencontrer un homme qui me trouve cool comme ça.
Je trouve que c'est
ça.
Une qualité.
Voilà, donc c'est ça, en fait. Est-ce que, pas une fille qui prend trop de place, qui parle trop, qui est trop... Voilà, qui fait des gestes, là, comme moi, et tout. Est-ce que ça...
Est-ce que c'est
fatigant
notre...
ouais.
Vu que ça s'adressait à moi, moi je pense que c'est une question d'inclusion, c'est-à-dire dans son caractère, si elle est extravertie ou quoi, est-ce que moi j'ai une place dedans ou pas, tu vois. Si je me sens exclu, ça va pas me plaire. Mais si je me sens inclus, dans, par exemple, t'es en soirée, tu t'éclates et tout, mais je fais partie du truc, j'ai pas l'impression que tu t'éclates qu'avec les autres mecs de la table d'à côté, tu vois, ça va pas me plaire. Je vais me dire, bah elle a pas d'intérêt pour moi. Mais si on s'éclate ensemble et tout, aucun problème. S'il faut aller faire les cons, je sais pas où, allons-y. Hein. Si ça fait partie du délire et que j'ai envie, tu vois, allons-y.
En fait, il faut que tu restes à l'écoute, quoi. Tu peux être extraverti, avoir du caractère, mais il faut quand même que tu sois à l'écoute de l'autre.
Ouais.
Si c'est juste, tu fais le show et en fait, ton mec, il est dans un coin, voilà, comme
c'est
tu disais,
une corde verte, là,
tu le calcules pas, c'est un peu relou, quoi.
Ouais.
Si tu inclus le mec en face et que en fait, c'est un délire ensemble et que toi, t'es extraverti parce que tu parles à tout le monde et tout, c'est très cool dans un
Après,
sens.
Peut-être que justement, il faut que lui-même ait quand même suffisamment confiance en lui. Pour supporter
Peut-être,
ce trait
pour
de caractère,
supporter,
parce que
ou
sinon
pour participer,
tout de suite
machin,
il va avoir l'impression d'être exclu, alors qu'en fait ce sera
oui, c'est ça.
Pas du tout.
Faut que ça matche avec ça. Ouais.
Oui,
ouais, je pense que c'est à elle de. Si c'est comme ça, il faut en discuter un petit peu, j'imagine, arriver à en discuter, mais c'est à elle de l'inclure, parce que si c'est elle qui s'éclate.
Après, faut aussi choisir quelqu'un avec qui l'inclusion se fait spontanément, quoi. Mmh. Tu vois, avec qui le délire est commun et où ça matche naturellement, tu vois. Si, parce que j'imagine que discuter et dire, bon, bah écoute, je suis un peu extraverti, viens faire le.
Non, en fait, c'est juste, tu fais des délires et puis si l'autre suit, c'est cool, et si l'autre suit pas, bon, bah.
Suivant, quoi.
Next, quoi.
Je me demande si on se pose la même question à l'inverse, tu vois,
c'est
parce que là on demande à trois hommes ça fait quoi si une femme elle a du caractère et tout, mais tu vois, enfin
tu veux dire si on demande à une femme ça fait quoi si l'homme il a du caractère.
Alors j'ai vrai, enfin je crois que ça évolue et heureusement que ça évolue
et heureusement oui,
mais c'est vrai que c'est une question qu'on pose moins parce qu'en fait de base quand on est on nous explique que on donne toujours une place prépondérante plus facilement aux garçons, aux petits garçons, à l'ado, à l'homme, etc. Et du coup, l'homme peut prendre toute la place et la femme à côté doit être tranquille et regarder et se dire « Oh, il est super, il est trop fort, waouh !»
Non, mais pour moi, ça marche exactement dans l'autre sens aussi.
Ouais.
Quand je dis le délire, machin, et c'est la même chose. Si un mec a du caractère, c'est cool, mais s'il est tout seul à avoir du caractère et qu'il exclut sa copine, ça marche pas, quoi.
Bien sûr, mais ça, je pense que c'est plus difficile à conscientiser
de
notre côté. Notre côté, les femmes, personnes qui se sentent femmes, tout ça, considérées vues comme femmes.
C'est moins naturel.
Ouais, parce qu'en fait, c'est plus, on nous inculque plus facilement que c'est normal, en fait. Et que si t'as moins de place que le mec, c'est normal. Et ouais, non, je sais pas.
Des fois, ça peut être même compliqué pour des mecs, parce qu'il y a plein de mecs qui n'ont pas forcément un gros caractère et qui, du coup, se sentent presque pas normaux parce qu'ils se disent « Ah bah non, mais moi, je suis pas... »
Masculinité toxique, donc...
Je suis pas forcément en avant et tout ça, donc...
Ouais.
Tout à fait.
Voilà.
Bon. J'avais une question.
On avait l'impression que non, mais...
C'est plus général, un peu. Est-ce que... peut-être qu'on vous l'a déjà posé. Est-ce que le fait de faire ces podcasts-là, de rencontrer toutes ces femmes-là, etc., ça vous... C'est sûr que ça vous apporte des choses dans votre vie, mais est-ce que ça change vraiment votre façon de voir les relations, le couple et la relation à l'autre ?
Super. Est-ce que ça vous a vraiment fait changer à des endroits et lesquels?
On a ça nous heure. A appris des trucs.
Une heure.
Ça fait 1h10.
On a déjà dépassé. Je vais devoir y aller.
Ça nous a appris des trucs. Ça, c'est clair. Je sais pas si ça nous a changé dans le sens où on n'était pas des gros cons avant et on est devenus des mecs géniaux. Enfin, non, mais je sais pas en fait. Mais tu vois, ça nous a pas changé. On s'intéressait au sujet avant et on a appris des trucs. On s'intéresse toujours parce que je pense que tu peux jamais tout savoir. Et surtout, c'est des témoignages. Et puis, il y a beaucoup de. Je sais pas si. Nous, on pense pas qu'il y ait des généralités, qu'il y ait beaucoup de cas particuliers. Et on apprend de chaque cas et de chaque témoignage, quoi. Mais du coup, ça nous apprend beaucoup. Et tu veux savoir si ça nous apprend aussi dans nos vies perso?
Ouais.
Bah ouais, je pense que ça nous permet d'évoluer et d'être plus à l'écoute.
Ouais. À la fin de l'épisode que j'ai enregistré, on a parlé d'un truc en off.
Oh là là, tu prends, c'est dangereux ce que tu fais là.
On peut ou pas?
On peut toujours couper, hein. Non, mais en vrai.
Et donc, c'était encore une question que tu te posais. Donc moi, j'aimerais bien savoir.
De quoi, la porte ouverte là, non, ou c'était quoi?
Là, il flippe là. Non, arrête, Valentine.
Non, mais on peut. Enfin,
vas-y.
Tu couperas. Tu te demandais si, quand t'es dans une soirée avec ta copine, c'est théorique, hein.
Ouais,
pas d'aujourd'hui. D'ailleurs, on sait même pas quand est-ce qu'on a enregistré.
Exactement.
Est-ce que tu peux aller parler avec d'autres filles? Ou est-ce qu'elle va être jalouse et que du coup vaut mieux pas que tu parles avec d'autres filles? Et tu m'as demandé en fait ce que j'en pensais.
Ah, je me rappelle pas de ça.
Et alors t'as évolué comment? Ben, moi je t'ai donné mon avis, mais coup tu fais quoi maintenant? Tu continues ou pas?
Ouais. C'est moi qui te demandais si je peux.
Tu continues
à les draguer les autres meufs?
Voilà, c'est ça. Est-ce que tu vas draguer des meufs?
J'ai envie de te dire, en ce moment je peux même pas sortir en soirée, donc j'aimerais bien moi aller en soirée et draguer, mais c'est pas possible. Parce qu'il y a pas de soirée en ce moment.
Mais si t'as une copine.
Je suis dans la merde.
Mais je sais pas si. Normalement, la copine, elle est censée. Pour moi, en fait, elle est censée savoir que si je vais aller parler à des filles et que je suis avec elle et que je la kiffe et que je lui montre et que je suis intentionné, si je vais parler à d'autres filles, c'est pas pour les draguer, c'est peut-être juste pour un peu. Voilà, tchatcher, être à la cool, et c'est pas dans un but de conclure.
Et non, mais on va pas se couper pour moi, de la moitié de la population. Parce qu'on est avec juste une copine.
Qui me demandait.
Je sais pas pourquoi je te demandais ça. Ouais, c'est marrant.
Pour parler, je dis juste pour parler. Je parle pas de.
Je pense que t'avais eu des remarques.
C'était pour parler, d'accord. Okay.
Je pense que t'avais eu des remarques d'une fille qui te disait que c'était pas cool parce que t'allais draguer.
C'est bizarre parce que je me rappelle d'une fille qui m'a dit ça avec qui j'étais en couple, mais ça remonte à longtemps. Et ça m'avait peut-être marqué, c'est peut-être pour ça que je t'en ai parlé. Ouais. Mais moi, je pense qu'il faut avoir cette confiance. Mais après, c'est vrai que ça peut être. Moi, si je me mets dans la situation où je suis avec une fille et qu'elle va parler à tous les mecs, peut-être que justement, je vais être justement insecure ou je vais me dire, ouais, qu'est-ce qui se passe?
Ça dépend comment tu vas
s'exprimer. Mais en même temps, il faudrait que je lui fasse confiance objectivement et que je me dise, en fait, elle va aller parler aux mecs. Enfin, en fait, elle va parler aux gens dans la soirée, tout simplement.
Qu'ils soient mecs ou meufs.
Et peu importe. Et c'est à la cool. Et je pense que, honnêtement, je pense que si je suis bien dans la relation, je pense qu'il n'y a aucun souci. C'est plutôt si je ne suis pas bien dans la relation, là je vais peut-être me poser des questions, mais du coup il faudra que je creuse et que je me dise, mais pourquoi est-ce que je n'ai pas confiance? Est-ce que ce n'est pas parce que la relation ne se passe pas bien?
Et moi, si je veux juste du coup revenir sur la question de Léna, ce genre de cheminement, ce genre de questionnement que tu as aujourd'hui où tu te dis ça, est-ce que tu l'avais avant?
Je pense moins.
Tu vois, et
je pense que je l'avais moins. Ça l'a vachement poussé.
C'est ça que ça nous apporte vachement le podcast, en tout cas moi. C'est de mieux tirer les fils et de mieux chercher les choses derrière les choses apparentes, tu vois, parce qu'on a eu des conversations assez folles avec toutes nos invitées. En plus, on a l'occasion d'avoir, comme là, des nouvelles conversations sur lesquelles, tu vois, tu viens en nous disant j'ai dit des choses dans un épisode, entre-temps j'ai évolué et machin. C'est, et donc nous, on évolue pareil, et c'est ça qui est génial, c'est que moi, en tout cas, ça m'a permis d'évoluer.
Connie, il a vachement évolué sur la question de l'infidélité, par exemple.
Je suis plus complètement fermé, c'est ça que tu veux dire.
C'était un tabou.
Tout à fait.
Finalement, je suis remis en question, quoi.
Ouais. Et à travers nos questions aussi, qui sont des questions de mecs, même si on est trois personnes, c'est des questions de gars. Enfin, je parle pour moi, hein, les gars, mais voilà.
Oui,
mais c'est des questions de mecs. Du coup, on se dit aussi que les gars qui vont écouter, c'est des questions qui pourraient être tout à fait légitimes pour eux.
Bien sûr.
Vous voyez. Donc, si on parle d'une question sur le ghosting et tout, ouais, mais qu'est-ce que t'avais, pourquoi? Ouais, mais en fait, t'as pas fait comme ça et tout. Ils peuvent se mettre à notre place. et du coup profiter un peu à la fois de notre expérience, en dire bah ouais, s'il y a un mec de 19 ans qui écoute et qui sait pas comment gérer tout, il a des réponses.
Ouais ouais, au moins il se dit tiens, peut-être le ghosting c'est quand même pas ouf, faudrait peut-être mieux que
l'adultère c'est mieux.
Ah Pascal, ouais, qu'est-ce qu'il a dit Pascal? Ah ouais, bah finalement je vais ghoster. Puis ouais, je vais tromper ma femme aussi tant qu'à faire.
Voilà, et on espère que voilà, que en plus on peut se, voilà, ils peuvent se nourrir à la fois de nos expériences et de ce qu'on propose.
Bien sûr.
Voilà.
Merci d'avoir répondu.
De rien.
Moi, j'avais une question aussi, mais je ne sais pas s'il y a le temps, du coup.
Oui, il y a le temps, bien sûr. Bien sûr. Enfin, ça dépend de la question, pardon.
Énumérer dans l'ordre chronologique.
Toutes les personnes que vous avez reçues au podcast.
On a fait 160 épisodes. Hein.
Un peu plus.
Wow.
Et ouais. Un peu plus.
Allez.
Allez. Non. Ma question, ce serait, j'ai l'impression que... du coup, ce n'est pas une question sur vous.
C'est pas grave.
Tant mieux, vas-y.
J'ai l'impression que du coup, ce que je recherche maintenant, je me demande si c'est pas des... comment dire ça ? Des choses antinomiques. C'est-à-dire, est-ce que c'est possible d'avoir dans la même personne un mec qui, en même temps, va avoir ce côté... audacieux, cool, qui aime vivre dans l'instant présent, qui aime pas non plus prendre la tête, surtout que moi, à la base, je suis quand même quelqu'un aussi d'indépendant, donc j'aime pas les gens qui vont trop me coller, etc. Mais qui est aussi ce côté fiable, genre qui, si on a un truc à organiser, qui considère pas ça normal qu'en fait, une heure avant, je ne sais toujours pas où, quand, comment...
Alors attends, parce que tu peux organiser des choses en une heure, hein, tu sais.
Parle à Pascal.
Si tu sais faire, tu sais que il y a des choses. C'est vrai que c'est mieux de prendre le temps d'organiser, mais en vrai, en une heure, tu peux en faire des choses. Une belle surprise, tu peux faire un petit truc sympa et qui va faire en sorte que tu te dises ah, dis donc, quelle audace, quel dynamisme. Et en plus de la surprise. Non, je taquine parce que c'est vrai que les vacances, ça met plus de temps à s'organiser, mais. Mais moi, je pense que oui. Je pense que ça existe. Oui, oui, je pense que ça existe. Et il y a deux manières déjà. Premièrement, s'il nous écoute, qu'il envoie un message.
Il avait eu un message.
Non, mais ça existe. Mais il y en a, je crois, il y en a.
Wow.
Il y en a un en France. Ouais, non, une personne en France, on l'a trouvé.
Ça existe.
On va le recevoir.
Ça existe.
Non, mais du coup, vu que j'ai un peu changé de critère, j'ai l'impression du coup que je vais chercher deux traits de caractère qui sont pas possibles d'être alignés dans le même corps. Le côté très cool et en même temps le côté plus carré, en fait.
Ouais, j'ai envie de dire déjà, le mec parfait n'existe pas. Ça, il faut quand même le savoir.
Oui.
Donc après, franchement, chaque mec est différent et en fait... Moi, je sais pas s'il faut que tu te poses ce genre de questions, non ?
Moi,
on n'est pas là pour trouver le mec parfait.
Non, mais parce que tu disais le mec qui est à la fois organisé.
Ils sont pas derrière.
Mais ce que je veux juste dire, c'est que je pense que le mec cool et carré, il existe pour la bonne et simple raison. Peut-être il est pas jeune,
cool
mais il existe parce que tu peux être. Enfin, tu peux être très cool quand t'es carré, tu vois. Quand tu sais que t'es carré, t'es d'autant plus cool parce que tu sais que t'assures.
Et ouais.
Donc il existe, mais. Il est peut-être un peu vieux parce qu'il faut de l'âge pour savoir qu'on assure qu'on est carré.
Quel âge je...
Non, mais vieux. Après, je veux dire vieux dans la maturité. Je pense que tu auras plus de mal à le trouver à la sortie d'un lycée que.
Reviens en arrière.
J'ai exagéré.
Il peut être majeur. T'as raison.
Bah oui.
Oui, t'as raison. Parler
de mon niveau. Je suis sorti du lycée. J'ai 25 ans.
Non, mais c'est sûr que ça existe, bien sûr. Mais c'est vrai que... Ouais, c'est cool d'être carré, c'est carré d'être cool.
Mais déjà, tu sais ce que tu fais. Tu fais les bike shops de Paris, hein. Tu commences par là. Et puis tu fais les cafés autour. Bon, c'est pas ouvert, mais ça va bien réouvrir un jour.
Non, mais parce que je suis totalement d'accord que le fait d'être carré, parfois... Enfin, moi, en tout cas, je sais que c'est comme ça que je fonctionne. Et même sur d'autres trucs, je suis indépendante. Mais dans une relation, ce qui me permet d'exprimer entre guillemets ce côté-là, c'est justement quand je sens que le mec est suffisamment investi, enfin qui me rassure suffisamment pour que je me dise bon ben c'est bon, chacun fait sa vie. Enfin à la base je suis pas quelqu'un qui envoie énormément de messages. Ce qui fait que je vais envoyer plus de messages, c'est quand je sens que il y a quelque chose qui est pas rassurant derrière et qui me stresse et je vais peut-être donner l'impression du coup parfois d'être plus collante que je ne suis, alors que si les choses sont claires, etc., moi, c'est pour ça aussi qu'avec ce mec, au début, je me suis dit que ça pouvait le faire, c'est que quand, en fait, on avait la prochaine fois programmé, si entre les deux rendez-vous, on n'était pas à se donner des nouvelles tous les matins, au contraire, moi, ça me plaît, parce qu'on a des choses à se raconter après, donc je pense que, oui, le fait d'être carré, ça peut permettre d'être plus serein.
Moi, je pense qu'il existe, mais je suis aussi d'accord que le mec parfait n'existe pas. Et en fait, déjà, il faut que tu vois comment tu mets le curseur, si tu veux qu'il soit un peu plus carré ou un peu plus cool, où tu le mets, quoi. Et aussi te dire qu'il y a des trucs, c'est pas ton mec, en fait, qui va te les apporter.
Ah.
Ton mec va pas t'apporter tout. Donc peut-être, il sera très carré, pas juste hyper cool, mais c'est pas grave parce que tu rigoleras plus avec tes copines. Ou l'inverse. Peut-être que lui, bah, tu vas super te marrer avec lui et que ce qui va te rassurer, c'est, je sais pas, ton boulot, tu vois.
Ouais.
Moi, ce que je voulais dire, tu sais, quand je dis le mec parfait n'existe pas, c'est surtout, je sais pas si tu dois choisir un mec en te disant il est carré, il est cool, enfin tu vois.
Oui.
En fait, c'est juste, il faut que ça soit un coup de cœur et en fait, et après, si c'est un coup de cœur réciproque, bah normalement, il est censé, enfin, ou tu peux lui essayer de lui transmettre le côté carré un peu.
C'est ça, là, on dirait qu'on crée un Sims.
Ouais, c'est vrai. Hein.
Non,
parce que c'est bizarre quand même, tu vois.
On met les compétences et tout, tu sais.
Et puis, il y a un truc, moi, que j'ai relevé, j'aimerais juste rajouter, c'est qu'on a, on en parle souvent avec Pascal, notamment, c'est que dans les témoignages qu'on reçoit, ça nous a, enfin, qu'on reçoit donc les invités qui viennent nous raconter, ça nous arrive des fois d'avoir donc enfin certaines jeunes femmes qui arrivent et qui disent voilà, je trouve pas de mec, machin, je suis en galère, et en fait on a l'impression, nous, que des fois aussi elles sont dans l'attente, et en fait il y a ce truc où elles ont l'impression que le mec parfait va arriver et qui va résoudre un peu leurs problèmes et aussi un peu remplir leur vie. Et nous, en tant que mec, en tout cas moi en tant que mec, je vais surtout chercher chez une femme qui a déjà une vie, en fait, qui a pas besoin de moi du tout, et pas que moi je suis là en mode je vais remplir ta life et je vais gérer toute ta vie, quoi. Moi, justement, je trouve qu'il faut être en mode proactif et faire ta life et avoir tes passions, et en fait c'est comme ça que t'intéresses un mec cool et carré, tu vois, en plus. Et plutôt que de dire putain, je suis dans l'attente, il est où, qu'est-ce que les mecs, ils sont relous, ils me répondent pas, quoi, tu vois.
Ah, mais ça, je suis complètement d'accord.
C'est
et
un peu nous, ouais,
c'est pour ça que les questions dans les applications de rencontre de tu cherches quoi, ça m'énerve, parce qu'en vrai, on devrait pas chercher une relation, on devrait croiser quelqu'un
et avec qui ça, voilà, avec qui t'as des trucs à partager,
quoi. D'être avec cette personne pour rentrer en relation avec elle, plutôt que combler l'envie d'être en relation avec quelqu'un qui va cocher à la limite certaines cases qui nous plaisent.
La case cool, la case carré,
la case moto, la case comédien.
La case comédien, voilà.
Ça suffit.
Non, mais en
c'est
vrai,
un hasard.
Non, mais
d'accord.
En vrai, non, mais moi je rejoins Léna dans le sens où ce qui est intéressant dans le côté comédien, c'est que vous partagez un truc. Déjà, ça veut dire que le mec, il fait quelque chose quand même.
Oui.
Il a une activité, enfin, il est comédien, il a une passion.
Il a une passion
et vous partagez en plus cette passion. Et franchement, partager une passion, c'est quand même cool aussi, de construire une relation sur une passion que tu partages.
Alors, on a l'épisode avec Amy, qui est sortie, qui a vécu 26 ans. Elle était comédienne et son mari comédien, metteur en scène. Et on vous invite à l'écouter. Parce que
mais là, il n'est pas sorti encore, non ?
Si, il est sorti.
Là, il est sorti.
Le jour où on va diffuser
celui-là, il sera sorti. Oui, pardon, il est sorti.
Il est sorti, évidemment. Et donc, le partage de passion.
C'est
voilà,
un excellent épisode.
Voilà, qui raconte 26 ans de relation.
C'est intéressant pour le coup. Ouais, ouais. Hein,
pour toi, Léna, peut-être.
Mais je l'ai écouté.
Ouais, t'as vu, quoi. Il est ouf.
Il est chouette, hein.
Il est super. Donc, ça m'a parlé beaucoup.
Ouais, à la 22e minute,
oh,
tu te souviens.
Ta vanne, incroyable.
Connie fait une vanne à un moment, ouais, vraiment ouf, quoi.
Trop bien.
Ouais, hyper drôle.
Doué.
Bon, très bien. Merci beaucoup.
Vous avez d'autres questions encore? On est sur la fin.
On est à la fin, ouais, c'est bon.
Oui,
merci beaucoup d'être revenu.
Vous avez envie de partir, c'est ça.
Merci.
Merci. L'épisode le plus long, je crois, des gentilshommes.
Il est très long, mais c'est un
blockbuster.
Non, mais c'est pour écouter cet été, les gens ont ça à faire
sur la route.
Voilà.
Sur la plage, peut-être avant de pécho un beau surfeur.
On a pas fait le surfeur, ouais.
Coulé carré, comédien éventuellement, à 16h. Et puis mal alpha, évidemment.
Surtout. Mais pas trop.
Toutes les trois se battent pour le mec, attends, ça peut être pas marrant.
Allez, merci beaucoup.
Merci en tout cas à vous.
Vous pouvez partager cet épisode si vous a plu. Vous pouvez nous retrouver sur www.lesgentilshommes.fr, sur notre Instagram. Vous pouvez
joindre le club des gentilshommes en participant au Tipeee. Et voilà, c'est parti, quoi. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode des gentilshommes. Et merci à tous. Merci.
Et on vous embrasse.
Adal, merci Connie, merci Mitch, merci Cynthia. Et merci bien sûr au studio Restless, Pierre et Ben qui nous accueillent. Allez, ciao.
Ciao.
Au revoir.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.